Et là, on arrive dans la ville. Moi, je dis château, c'est certainement pas un château, mais en tout cas, la maison, elle est énorme.
Oh, si, 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 c'est un bon château quand même. Hein. C'est un beau manoir. Ouais, ouais.
Franchement, Stéphane Plaza, il a fait un boulot de ouf pour eux.
Est-ce qu'il y a deux vasques ?
C'est ce qu'on veut dire. En fait, ils ont plus de thunes et c'est les maçons du cœur. En fait, c'est Valérie D'Amido. Et voilà, on vous a fait une petite bicoque. Là.
J'ai tout marouflé. Regardez, c'est magnifique, non ?
No in a world, Jack. What do you mean, no in a world?
It's not that kind of movie.
Oh? Okay.
Vous êtes complètement tapé ou quoi? Ça va être une tragédie, ce truc-là.
Ce manque d'humilité en face de la nature qui se manifeste ici me terrifie.
Removing the head or destroying the brain.
Ça n'a pas l'air très effrayant. Comme une grosse dinde.
On va passer une bonne soirée, Monsieur Pignon. Une très bonne soirée.
Accrochez-vous, ça va faire mal.
Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans VTABA, le podcast qui se fait des films à partir des bonnes annonces et ce, sans aucune objectivité. Aujourd'hui, fini les princesses guerrières de Disney, fini les princesses guerrières de DC et place à un cinéma loin des grosses industries, place à un cinéma non pas de niche, mais un cinéma de nid.
Oh.
Avec l'ABA de The Nest, un petit film qui débarque sur la plateforme VOD de Canal+ et qui a l'air d'annoncer les vicissitudes d'un couple de nouveaux riches sur le déclin. Un film au festival Sundance, mec du film indépendant, à tendance politisée, dénonciatrice, loin des carcans Hollywood chewing-gum. Et en parlant de ça, laissez-moi vous présenter ma team de cinéastes engagés qui eux aussi ont des films bien particuliers à vous présenter. Ambiance, festival, danse du soleil. Avec moi, autour de la table de ce festival Danse du Soleil, Johanna.
Tu veux dire Camille de Lourdes. Alors, je suis venue avec mon film Vicissitudes dans le Mississippi. Alors, malheureusement, je ne peux pas vous dire grand-chose sur le pitch du film parce que je suis sous contrat avec une production. Mais je peux vous donner un petit indice sur le casting qui est absolument détonnant et étonnant. En effet, vous pourrez voir un magnifique duo Claire Chazal et 50 Cent
wow.
qui sont formidables. J'ai adoré travailler avec eux.
Ah, j'espère que tu vas remporter le prix de la mise en scène au moins.
Merci, je le mérite.
Clément, petit cinéaste en herbe ?
Oui, je suis le producteur du film Prométhée US. Un remake réalisé par le jeune prodige du cinéma américain Ridley Scott. Un film de SF indépendant avec une scène d'intro où des aliens déversent de l'ADN dans une rivière, ce qui donne naissance à la vie sur Terre.
Oh.
Incroyable.
C'est prometteur.
Un film politique.
C'est marrant, ça me dit quelque chose.
Non, ça te dit rien.
Ah oui, non.
Mais cette voix, je reconnais cette voix, c'est notre cinéaste du Sud. Erwan qui est là.
Ah non, vous vous trompez, je suis désolé, je suis François Jardiland, cinéaste émérité. J'ai pu à me présenter.
Je viens de comprendre François Jardiland.
Et vous lisez pas mes chroniques dans les graviers du cinéma? Bon. Et donc je reviens avec un nouveau film qui s'appelle Courche.
Cool.
C'est un film où Franck Dubosc tombe en panne dans les Alpes et doit passer une semaine avec de riches entrepreneurs qui ont fait succès.
Non mais ça c'est l'Alpe d'Huez, c'est pas Sundance.
Non mais c'est parce que c'est un film d'auteur. C'est en fait on le confond souvent.
Je crois pas.
Oui puisque c'est dans les Alpes, c'est un film d'auteur.
J'ai moi aussi notamment un film à vous présenter qui s'appelle Malcolm X-Men. Qui est une utopie politique dans laquelle Martin Luther King et Malcolm X combattent l'oppression blanche à grand renfort de super pouvoirs et de tonitruant discours politique
ça
et télépathique.
Un carton.
Politique et télépathique.
J'espère que ce festival va vous enchanter.
Eh ben, ça promet.
Waouh, que de bons films. J'achète ton film.
Merci beaucoup, il
je
faut le distribuer.
Je préfère ça que Prométhée.
C'est fou. Hein. C'est le Covid, ça a eu un impact sur les scénaristes et sur la production.
Je ne pense qu'à ça. Ah, Erwan, ça fait plaisir de te retrouver. Ça fait longtemps que tu n'avais pas pris les micros avec nous.
Ouais, bah, je sors d'un petit rhume.
Ah,
c'est
juste
vachement
un rhume.
Original.
D'un petit rhume et d'un petit deuil aussi, parce que... Faut aussi l'avouer que t'as dû subir l'annonce, la terrible annonce de Franck Dubosc.
Ouais. Oh, putain, arrête, on avait dit qu'on n'en parlait plus.
Que ouais. Camping 4 ne sortira jamais.
J'ai mis un mois à m'en remettre.
C'est pour ça que tu n'étais pas là.
Ouais. Ne jamais dire jamais.
C'est pas sympa de remuer le couteau mais, dans la plaie, Romain.
Mais depuis, j'ai eu une excellente nouvelle. Ils vont peut-être faire la suite de Barbecue. Donc,
On gagne au change. Allez, on passe au sommaire. Et vous l'aurez compris, aujourd'hui, on retourne piocher dans le programme télé VOD de la BA. Avec The Nest, la BA de The Nest, un petit drame slash thriller indépendant au gros casting et qui a éclairé le festival Sundance 2020. Ah, une époque où le mot festival avait encore un sens, où l'on pouvait regarder des films dans les salles. Ah, bref, trêve de nostalgie, cela nous laissera surtout l'occasion de parler de ce festival qui a su s'imposer comme un incubateur de talents du cinéma depuis quelques années. Et vous verrez, vous avez peut-être bouffé du Sundance sans le savoir. On fera le tour de la question avec toi, Jojo, notamment. Puis, en deuxième partie d'émission, place au match retour. Après s'être fait la BA dans notre épisode 49, on renfile nos combinaisons de cosmonautes pour vous délivrer à poumons déployés nos avis sur Le Passager numéro 4 de Joe Pena, un film qu'on a vu depuis sur Netflix. Alors, ce huis clos de l'espace en manque d'oxygène, grosse bouffée d'air frais ou bien asphyxie par la douille? On débriefera cette mission spatiale ensemble. Et spoiler alerte, je ne sais pas, il faut que je prenne un peu de temps pour respirer. Ah, voilà pour le sommaire de l'émission. Est-ce que ça vous convient?
Ça nous convient.
Non.
Non. Eh bien, sors tout de suite.
On se reprend une heure, on en reparle.
Il va m'expulser du vaisseau encore.
Allez, on va partir sur la BA de The Nest, ce petit film indépendant. Et je rappelle que cette BA, comme d'habitude, comme pour tous les épisodes, est glissée dans la description. En lien, voilà, matez-la avant, matez-la pendant, matez-la pas du tout, écoutez-nous sinon. Bref, faites ce que vous voulez, vous savez maintenant. Allez, c'est parti.
C'est parti.
Mes petits oiseaux, allons dans le lit.
Piu, 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 piu.
I want to welcome Rory O'Hara, my highest earner in the pit.
I don't see markets, I see risk, reward, and money.
I think we need to move.
What are you talking about? I thought things were great.
Mm-mm. Things are dried up here.
This will be our fourth move in 10 years.
Don't go backwards.
But money's fine, right?
Yeah.
Right?
Yeah. This is a fresh start.
How about this?
Oh my God.
It's perfect, Al. That's what we always wanted.
Is it?
You're embarrassing.
And you're exhausting.
I paid our rent. I paid for Ben's school. I bought you a car. I bought you a horse. I paid for construction on your barn.
You're so full of shit.
For the first time in years, I feel worthwhile. I feel powerful.
You're a poor kid pretending to be rich. We don't have any friends here. We don't have any family. What does it matter so much to you?
Because I deserve this! A lot more!
Eh ben ça, à mon avis, ça va pas bien se terminer.
Ça sent le drame à plein nez.
Ouais,
tu vois qu'on a dit aux gens de bien choisir avec qui se confiner.
J'avoue.
Confinement numéro 1. C'est vrai que c'est très très Sundance. Enfin, on aura l'occasion d'en reparler. On va en parler de cette BA évidemment, mais avant tout, vous connaissez la chanson. Il s'est fait un nid parmi nous depuis le début. Un nid de fils électriques et autres puces électroniques. C'est El Calculator, notre ordinateur qui a compté les plans de cette BA. El Calculator, c'est à toi.
C'est moi, c'est moi. Salut les oiseaux.
Salut.
Dans la BA de The Nest, il y a 66 plans en 1 minute 43, soit 0,6 plans par seconde. La moyenne habituelle, quoi.
Encore la moyenne.
Le mec, il est blasé.
On n'a rien à se mettre sous la dent, là. Ça fait plusieurs fois qu'on a la moyenne de suite.
Comment y remédier?
Parce que tu ne sers plus à grand-chose, le calculateur. Coup, ouais, tu commences à devenir obsolète.
Mais si, je sers à quelque chose, Erwan, car il s'agit du 50e épisode. J'ai donc fait un bilan statistique depuis le début de l'émission. Voulez-vous l'entendre?
Oh, il fait du zèle maintenant.
C'est comme Siri.
Comme Siri. C'est pas comme la Syrie. C'est parti pour le bilan. La BA avec le plus de plans. Il s'agissait de Hobbs & Shaw, 216 plans.
Ah oui, on avait bouffé de l'image,
clair,
je me rappelle.
C'était épileptique le truc. Ouais.
Et il s'agissait également de la BA avec le plus grand nombre de plans par seconde, puisqu'il y en avait 1,2 par seconde.
Et est-ce que c'était la BA avec le plus grand nombre de douilles ?
Ça, je vous laisse en juger. La BA avec le moins de plans, il s'agit des choses qu'on dit, les choses qu'on fait avec 30 plans. Même si en réalité, Lux à Eterna avec 7 plans restera invaincu, mais il s'agissait d'un court-métrage.
Un court-métrage ?
Oui, un court-métrage.
Comme on avait pu le dire dans notre épisode.
Et la BA avec le plus petit nombre de plans par seconde, il y a 3 ex-aequo.
Oh !
Avec 0,3 plans par seconde, les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, Star Wars épisode 9, et oui, c'est étonnant, et Atlantique.
Ah.
Oh.
Mais là aussi, toutes ces BA sont battues par Lux à Eterna avec 0,1 plan par seconde.
Il a niqué le game.
Forcément, Gaspard Noé, il a niqué un peu le game.
Qu'est-ce qu'on peut dire du coup de ces statistiques, les amis ?
Bah,
les choses qu'on dit, les choses qu'on fait.
Je trouve qu'on a beaucoup trop dit ce titre déjà dans cet épisode.
Alors,
ça va pas du tout.
Moi, je vois une corrélation. Plus le film est chiant, plus
il y a de plans, plus c'est
de la merde.
Pas très
Alors,
bien.
Du coup, il y a une espèce d'équilibre. Tu vois, les courbes se rejoignent.
Mais comme quoi, 0,6, c'est rassurant en fait. Quand on tombe sur ça, c'est que ça va pas être trop film français et trop film d'action.
Ouais, mais après, c'est ce qu'il disait Romain, c'est que Atlantique fait un peu mentir les stats, quoi.
C'est
parce
vrai.
Que c'était,
il y avait 0,3 plans.
Il était rythmé, il était bien.
Et c'était bien.
C'était un film qui prenait son temps et qui avait raison de prendre son temps. Il y avait une mise en scène derrière.
Tout Dis-moi, calculateur, tu prends les honoraires à côté, tu fais des petites missions privées
Oui.
Parce que moi, j'aimerais bien savoir les stats de camping.
Je te les fournirai à part.
Super, merci. Je regarderai ma boîte mail.
Contre un virement en Bitcoin.
Ah, il se fait pas chier.
Pierre Palnor, le calculateur.
Voulez-vous entendre ma nouvelle fonctionnalité ?
Bien sûr. Quelle magnifique nouvelle fonctionnalité, d'ailleurs. Hein.
Le film dure 1h47 et la BA contient 1 minute 30 d'images. Grâce à ma nouvelle fonctionnalité, j'ai pu déterminer que la BA de The Nest révèle 1,4% des images du film.
Oh.
Ce qui est beaucoup, finalement.
Enfin, on a vu.
Moyenne haute.
Quand tu vois cette BA, t'as déjà vu 1,4% du film.
Ouais, si tu la revois
pas
100 fois,
de le reste.
T'as vu tout le film, c'est ça, ouais, j'ai c'est bien ça. Compris.
Pourquoi se faire chier aller au cinéma alors, hein ? Matez-vous la BA 10 fois et vous avez vu le film. Merci El Calculator pour ces super stats, c'était cool.
Je vous en prie. Ouais.
On se retrouve au prochain épisode.
Au prochain épisode, le 51.
Voilà.
Ah.
Bisous.
Piou.
Ah là là, sacré ordinateur.
Et quand il s'est acheté une politesse, El Calculator.
Il était de bonne humeur aujourd'hui. On sait qu'il est un peu...
Bah, il a pris des initiatives, et c'est incroyable.
Ouais. C'est un ordinateur qui réagit aussi à la météo. Et comme il fait très beau aujourd'hui,
du coup, il est heureux.
Voilà. En fait, tu lui as mis l'option français.
J'ai parfois des rhumatismes. Voilà. Mais tu t'étais pas éteint ?
Bah oui, mais il prend un peu trop d'initiatives.
Il est toujours là. La BA de The Nest, on
Allez.
Y va ? C'est
Allez,
parti.
C'est parti.
Alors, qu'est-ce qu'elle nous donne, ces stats, 1,4% du film qu'on a vu
c'est
là.
6 plans secondes.
Et bien justement, on va vous dire exactement ce qui se passe dans cette BA. Allez, c'est parti. Ouverture de la BA sur le panneau Ascot Elite Entertainment.
Mais qu'est-ce que c'est ça, Ascot Elite Entertainment ?
Mais qu'est-ce que c'est, Ascot Elite ?
C'est une marque de vêtements, je crois.
C'est vrai qu'ils sont très bien habillés dans ce film.
Parce que maintenant, ils sponsorisent aussi les BA.
Alors, c'est une société de distribution et de production suisse qui existe depuis 1928.
Oh, le cliché, ça parle de l'argent, le truc est suisse.
Donc voilà, qui ont produit beaucoup de films qui se retrouvent un peu dans le ton indépendant, auteuriste. Je vous en donnais comme ça quelques-uns, produits et distribués. Je ne sais pas s'ils ont produit et distribué, mais voilà, on peut retrouver 12 Years a Slave, trouver À la Merveille de notre
Trop
copain
bien.
Terrence Malick.
Ok, donc c'est de la qualité quoi.
Et chez les Français, Le Sens de la Fête. Distribué par Ascot Elite Entertainment, voilà Le Sens de la Fête de Nakache Toledano, avec le grand Jean-Pierre qui nous manque évidemment.
C'est Cali. Ouais,
donc c'est Cali. Vous le savez, je pense que c'était important de le savoir.
On pourra se la péter en soirée, merci. Voilà.
Vous pourrez maintenant briller en soirée. Tu connais Ascot Elite Entertainment ?
Bien sûr, cette compagnie suisse.
Allez, on rentre dans la BA. Alors là, on a une musique inquiétante qui se lance direct. Hein. Je pense que ça annonce l'ambiance. Ce genre de musique de thriller.
C'est
quoi.
Pesant. Ouais.
C'est piano, violon, genre un peu Joker. Vous voyez le thème du Joker
dans
la
salle ?
Mais c'est vachement déstabilisant parce que du coup on s'attend à ce qu'il y ait du.
super-héros.
De l'épouvante, quoi, pas dans Mickey.
Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, ça fait vachement code de film d'épouvante. Ouais,
ouais. Ouais bah écoutez...
Alors que finalement, dans la BA... Bon,
le film est annoncé comme étant un drame-thriller, ouais. Je pense qu'on y rentre directement. En tout cas, là, pour reprendre le contexte, on a un homme qui souhaite la bienvenue à Rory O'Hara.
Ah, donc c'est en Irlande.
Je ne sais pas, écoute, je crois qu'il n'y a aucun lien avec Scarlett O'Hara. Petite blague de cinéphile au passage, qui apparemment est son collaborateur le plus profitable.
Ok.
Et qui est ce Rory O'Hara? J'ai du mal à le dire, on va l'appeler Rory tout simplement.
Eh bien, c'est son collaborateur le plus profitable.
Merci. C'est Jus de l'eau.
Ouais. Jus de l'eau.
Vous pouvez tous en avoir chez vous, il suffit d'allumer le robinet, d'ouvrir le robinet. Jus de l'eau qui apparaît.
Donc on a le contexte. Qui m'expose un peu le contexte? Allez, essayons de savoir qu'est-ce qu'il fait, ce mec.
Alors on a Rory O'Hara qui a l'air du coup de travailler dans tout ce qui est finance.
Ouais. Hein,
on le voit, il est en train de trader, de faire ce métier très complexe qui a l'air...
Ouais, c'est ça, il nous parle de marché, il nous parle de risques, de dividendes.
Que pour lui, c'est pas des marchés, c'est des risques et des dividendes.
On est dans la finance.
Ouais, clairement, je pense à une bourse finance, un truc comme ça.
C'est ça. Et puis un mec, du coup, qui a envie de se faire des... Enfin,
de la thunasse,
quoi. Qui est drivé par la thune, quoi.
Ouais.
Lui, pour lui, c'est pas des marchés, c'est des risques.
Ouais, et puis tu sens qu'il a la vie rêvée, quoi, parce qu'on nous expose en quelques plans qu'il a genre une vie familiale et amoureuse qui est drôlement épanouie, quoi. On le voit jouer au foot avec des enfants.
Ouais. On le voit baiser sa femme.
Il a vraiment une vie de rêve.
Ou sa femme, ou peut-être pas. J'ai vu une paire de fesses, je sais pas la qui a
passé. Je pense que c'est sa femme. Mais par contre, il y a un plan qui est super inquiétant et qui rejoint du coup la musique, c'est qu'on... Pour revenir un peu encore à cet univers Dark Knight, là, c'est qu'il a un vieux sourire de crevard à la Joker.
Mais il fait trop peur.
Complètement. Ouais.
Pour la petite info, en fait, j'avais vu la BA plusieurs fois sur mon téléphone et c'est la première fois avant d'enregistrer que je le voyais sur le grand écran et j'avais pas vu ces mimiques qui sont vraiment flippantes, où il a vraiment des sourires sadiques.
Ouais, il pourrait faire en fait le Joker, j'ai l'impression.
Ça rappelle un peu American Psycho, non, ce type de perso. Un peu très ambitieux dans la société, mais un peu dérangé.
Ouais, il est flippant, il a ce vieux sourire. On a même un plan où il sent les doigts, tu sais. Il est là.
Comme Joachim Löw à la Coupe du Monde. Et quand tu fais ça, c'est que ça pue.
C'est un biopic. Et la musique qui monte, histoire d'encore plus écraser le truc.
Ouais.
Et ça tombe bien parce que là, paf, il écrase une mouche. Avec son truc. Enfin, c'est pas du tout une mouche, mais en tout cas, on sent qu'il s'énerve sur son bureau. On a le cut noir. Le fameux cut noir qu'on aime bien, qui vient casser l'ambiance. Et là, direct, on rentre dans, à mon avis, dans ce qui va être le cœur du problème chez ce couple, c'est qu'il faut déménager.
Ouais. Quatrième fois en dix ans,
quand même.
Incroyable.
Ça fait combien, ça, le calculateur, en moyenne?
Un peu moins d'une fois tous les deux ans.
Ah, ça fait beaucoup, hein.
Ouais.
Ouais.
Beaucoup,
ouais, pourquoi il bouge autant? Alors, parce que c'est à cause de son boulot, non?
Je sais pas, trop de pression.
Ouais, il doit être muté.
Non, j'ai l'impression que c'est pour son boulot qu'il est muté. En fait, il part à des endroits. Non, mais parce que t'as dit.
T'as pas dit les mêmes mots, ok?
Non, mais c'est pas ça, t'as dit autre chose après.
Non, je dis pour son boulot, s'il doit être muté.
Ah oui, s'il doit être muté.
Bah, j'ai l'impression qu'il va là où il y a le plus de profit, tout simplement.
En tout cas, il essaye de convaincre sa femme. Parce qu'on voit qu'elle, elle est pas très d'accord.
Donc, on retrouve Carrie Coon.
Ah putain. On peut faire une parenthèse sur Carrie Coon.
Bien sûr qu'on fait une parenthèse sur Carrie Coon.
Allez, Théma.
Elle est exceptionnelle. J'adore cette actrice. On ne la voit pas assez. Elle était dans The Leftovers où elle est incroyable. Rôle principal féminin de The Leftovers. Et je suis trop content qu'elle aille au cinéma et qu'elle soit dans des films qualitatifs et qui montrent tout son jeu parce que c'est une grande actrice. Vraiment.
Ouais. Moi, je l'ai découvert dans The Leftovers et c'est vrai qu'elle est. En fait, j'ai l'impression qu'elle est parfaite pour ce genre de film thriller, dramatique et tout, parce que The Leftover, c'est pas Prison Break, c'est pas...
Non.
Voilà, c'est pas Malcolm in the Middle, hein, c'est vraiment la série qui correspond un peu au genre de la BA, là.
Mais elle est très intense. Ouais,
oui, mais sans être dans l'excès de la meuf qui crie et qui pète des câbles, quoi.
Donc voilà, ils doivent déménager. On revient à la BA, ils doivent déménager. Pourquoi? Ce qu'il dit Jude, c'est que ça marche plus ici pour lui.
Ouais.
Et au passage, il va lancer 1, 2, 3, 4, un petit jazz smoothie là, dans la DA qui annonce les panneaux à Scott Elite Entertainment, on en a déjà parlé. Film Nation Entertainment, donc on est dans l'entertainment avec ce film apparemment.
on va se régaler.
Et BBC Film qui ont l'air de produire, distribuer le film. Et on arrive à la scène du lit. Voilà.
Le nid d'amour.
Les déménageurs compulsifs. Donc 4 fois en 10 ans, on l'avait dit, elle s'inquiète pour l'argent. Sur ce lit-là, elle est en mode, mais attends, mais pourquoi on déménage ? Rassure-moi, est-ce qu'on a encore de la thune ?
Et il dit, oui, l'argent, ça va.
Oui, pas de souci.
Pas l'air déjà de le croire. Tu sens qu'il y a, comme on dit chez moi, il y a murène sous patate.
mais d'ailleurs, patate, je me pose une question. C'est bizarre qu'elle lui demande ça, non ? Genre, pourquoi on déménage ? Est-ce que l'argent, ça va ? Est-ce que c'est des gens qui déménagent parce qu'à chaque fois, ils font faillite et du coup, ils sont obligés d'aller ailleurs ?
Ou alors, elle n'a pas accès au compte. Je vois bien le couple où c'est genre le mec qui gère l'argent et la femme, elle est un peu boniche, tu vois. Je la sens pas très épanouie, cette femme dans ce couple-là.
Ça sent puisqu'elle ne sait pas. Elle demande. Ouais. Elle dit, est-ce que l'argent, ça va ?
Et du coup, elle dépend entièrement de ce que lui va lui dire, quoi.
Tu sens qu'il essaye de fuir quelque chose aussi, non ?
Ouais.
Il y a un grand espace quand même entre le... Elle lui demande de répéter, il attend un petit peu et là, il fait oui.
Ouais,
comme s'il avait à réfléchir. C'est mauvais signe généralement. Mmh. C'est comme quand ma carte bleue, elle réfléchit un petit peu avant de dire paiement refusé.
Vers le 30 du mois, attends, tu sais. La carte réfléchit beaucoup.
Ils sont à découvert. On est à moins 30 euros, mais t'inquiète, on va se refaire. Là, ça faisait longtemps, parce que là, dans la baie, on a un panneau critique. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu.
C'est vrai, tout à fait.
Donc, un panneau critique qui annonce un thriller grandiose et envoûtant, selon IndieWire.
Okay.
Qui est un magazine sur les films indés, comme son nom l'indique.
Non, sur les fils indés.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Bien joué.
Oh,
IndieWire. Là, on arrive dans la partie que j'ai appelée Nouvelle Maison, Nouveau Départ. La famille, elle débarque dans un château. Et on sent déjà que la mère, elle n'est pas rassurée dans le taxi. Ils arrivent en taxi et puis il y a Jude Law qu'on voit à travers le pare-brise.
Qui est tout fier de lui, là. Il est tout satisfait de montrer ce château.
Ouais, mais moi que je trouve très inquiétant déjà.
Ouais.
Parce qu'on retrouve encore ce sourire un peu à la Joker là, qui est là.
Oui, ils ont des enfants, on l'a pas dit, mais je pense.
Voilà, c'est
je
ça,
pense,
il y a deux enfants
deux
typiques, gosses, ouais. Une fille, un garçon, la famille classique.
Deux enfants
quoi.
Typiques.
Non, la famille typique quoi.
Non, mais tu sens que c'est des enfants qui sont là pour le décor quoi. Enfin, ça va pas être une grande. On les voit pas. On les voit que en arrière-plan. En fait,
oui, ça
va
pas
être les
Goonies, hein, à mon avis, ils vont juste là. Nous partons en aventure.
Mais non, imagine.
T'as quand même de plus en plus de films où tu sais, t'as des familles de juste deux parents, deux enfants, et les enfants ont quand même une petite importance, quoi.
Ouais, mais après là, ce qui est inquiétant même pour les enfants, tu te dis, mais des gamins dans ce grand espace, ils sont que deux. Ça fait pas truc accueillant où ils vont recevoir des potes, quoi. Tu sens qu'ils vont être bien isolés
C'est
au milieu de cet espace.
C'est très austère. Et là, notamment, dans la baie, on nous montre une scène. Tu sais, la fameuse grande table les grandes pièces de salle à manger, là.
Très froide.
C'est très austère comme ambiance. Ça fout des frissons et on les voit manger à quatre là, sur leur bout de table. Ça annonce pas du meilleur, leur déménagement, en fait. Hein. Ils étaient peut-être mieux là où ils étaient avant. Hein. En tout cas, maman, ça les amène en dépression.
Maman,
elle part en dépression. Là, parce...
elle monte plus ses fesses.
On la voit.
Elle est pas trop contente.
Alors, Jude, lui, il est très, très convaincu de son choix. Et puis elle, en fait, non, tu sens qu'elle va pas du tout kiffer le délire. La musique, elle redevient inquiétante. On arrête le jazz, elle redevient inquiétante. On a le panneau qui dit « Celui qui a tout n'a jamais assez.
»
L'appât du gain.
L'ambition, l'appât du gain.
Et quand je dis qu'elle est inquiétée, elle est pas rassurée, la maman, c'est parce que on arrive dans la partie où j'ai appelé un plan d'évasion. Point d'interrogation.
Ah oui, ouais.
Tu vois, parce qu'on la voit là à ce moment-là dans la BA où elle cache de l'argent qui lui-même est caché
boîte,
dans le grenier,
c'est ça,
qui est dans une boîte.
Pas dans le grenier, dans un petit placard, enfin une espèce de faux plafond.
Donc moi j'ai l'impression que du coup elle met de l'argent de côté genre pour se barrer.
Pour
quoi.
Se barrer à la première occasion, ouais.
Parce que le gars il est en train de devenir complètement fou. Tu sais, un peu un peu une ambiance à la Shining, quoi. Genre horreur.
Non, mais c'est ça.
Et
c'est un pitch de base de film d'horreur, quoi. Ils arrivent dans une grande maison qu'ils aiment pas, mais ils sont obligés de rester et tout. Et
c'est
du coup,
mais sauf que là, au lieu d'avoir des fantômes.
Il y a juste plus de thunes.
Est-ce que ça va pas être genre que un couple qui se déchire, c'est un film d'horreur, tu vois, un truc comme ça?
Bah peut-être, parce que l'amour c'est filoche. Là, on les...
L'amour, c'est...
Et dans le match retour, on fera le filet mignon, donc restez avec nous.
L'amour c'est filoche, tu es embarrassant et toi tu es exténuant.
Ah oui, alors c'est le moment où elle rigole? Non, c'est plus tard.
Non, c'est après.
Ok.
Si, ça va être le moment. Du coup, là,
on est dans le filet mignon. Là.
On a l'impression qu'ils ont un jeu de rôle en fait, parce qu'ils sont avec des amis au restaurant, je sais pas quoi. Ouais. Et puis,
ils sont à table et ils se balancent des vacheries, mais.
Ah ouais, c'est
Rap Compenders
là, c'est genre en mode.
Tu es embarrassant. Et lui, il lui répond quoi?
Et tu es embarrassante, et lui dit, mais toi, t'es exténuant.
Alors, on peut s'arrêter 2 secondes dessus parce qu'elle dit quand même en VO, You are full of shit. Et le sous-titre en bas, c'est marqué, tu es exaspérant, un truc comme ça.
Oui, mais parce qu'on n'est pas aux États-Unis, nous, on est une France
puritaine. C'est plein de
merde.
Alors
qu'elle lui a dit que, quand même qu'il était enduit de caca. Normalement, il doit s'essuyer après le gars.
Mais t'as le choix, parce qu'en plus, là, c'est une BA, on l'a pas dit, mais c'est une BA doublement sous-titrée. Donc, soit vous avez fait LV2 allemand et donc vous vous y retrouvez.
Comme moi.
Comme toi.
Non, vous ne comprenez rien si vous avez fait LV2 allemand.
J'ai cherché la BA. Bah, c'est dur de faire des films en ce moment. Hein, mais j'ai cherché une autre BA de The Nest. Il n'y en a pas en fait. C'est sous-titré allemand en même temps que c'est sous-titré
mais
français.
Mais c'est parce que si les distributeurs sont en Suisse, ben, du coup, forcément.
Oui,
c'est logique. C'est qu'ils ont trois langues
c'est
chez
les
eux.
C'est deux langues. Ouais, c'est les...
Ils ont l'italien
deux,
aussi.
Deux des trois langues officielles. Ouais.
Ce serait bien de le voir en allemand parce que du coup pour les scènes de dispute ça apporterait du truc. Ah je veux juste la phrase.
Nein 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 nein.
Money.
Arschlecher.
En tout cas il lui reproche ça. Il lui reproche ça parce que du coup ils sont en train de se disputer. Lui il lui dit ouais mais moi j'ai tout fait pour toi.
Je t'ai acheté la maison. Je t'ai acheté
un cheval.
J'ai payé le loyer.
J'ai
acheté la voiture. Je t'ai acheté un cheval et après j'ai payé.
J'ai payé l'école.
L'écurie aussi.
Et l'écurie qui va avec le cheval. Hein et le foin.
Hop.
Et les selles.
Je t'ai pris tes petites boucles d'oreilles à Claire, celles que t'aimes bien.
celles que t'aimais bien avec les petits.
Voilà, on est parti au McDo hier.
J'ai rempli les placards de Merlot, là.
Qu'est-ce qu'il faut de plus ?
La version prolo, tu sais.
Et elle craque. Elle craque comme un cochon parce qu'on arrive à la scène du rire cochon.
Oui, exactement.
Qui vient totalement casser le délire, ouais. En fait. Elle voulait faire. C'est ce rire.
Oui, ce rire.
Ce rire gênant.
Tu sens le naturel qui revient, quoi.
Ouais, jusque-là, on était chez les nobles. Et
ouais.
Puis là, d'un coup, pouf, on est ramené dans l'Amérique profonde, quoi.
On se demande même si elle fait pas ce rire exprès, qui a surjoué pour lui foutre la honte, au fait.
Ouais. Mais c'est là qu'il lui dit.
Mais ils ont jamais l'entouré, en fait.
Elle lui dit tu délires complètement, quoi. Tu délires complètement. En tout cas, on sent que les deux, ils sont à fond dans leur rôle, quoi. Ils ont l'air d'être pas mal. Et c'est ce que nous rappelle le panneau qui arrive juste après. Un autre panneau critique, Jud Law à son meilleur, ouais. Selon The Guardian. Bah, hâte de voir ça. Et Carrie Coon, captivante, selon IndieWire encore. Et là, ça me fait rire parce que franchement, on va faire une petite pause sur ce petit panneau critique. Donc, Jud Law à son meilleur, Jud Law at his best en anglais, et Carrie Coon captivante qui est traduit comme ça, alors que sur le panneau il y a marqué Carrie Coon delivers one of her most riveting performances. Et ils ont juste traduit par captivante.
Oui, ils se sont dit, oh, c'est trop long.
C'est comme full of shit et tout.
C'est
quoi. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, ouais, c'est peut-être un peu trop, on va dire captivante.
Allez, moi j'ai envie de terminer tôt aujourd'hui, bam, captivante.
Ah, mais c'est l'occasion de rappeler que Jud Law était un grand acteur aussi, et moi je l'ai vu dans The Young Pope. Cette série, Captain Marvel, je l'ai pas vu, mais The Young Pope, où il joue donc un pape, et cette série est incroyable, et ça repose vraiment en très grande partie sur lui, où il joue un pape jeune, qui a genre la quarantaine, et donc tout le monde se dit que c'est le pape qui va réformer l'église, et en fait il est ultra conservateur, et c'est une série incroyable réalisée par Paolo Sorrentino. Si vous avez l'occasion de voir ça, il est juste fou dedans, et c'est vrai que j'ai trop hâte de voir les deux qui se clashent, quoi. Carrie Coon et Jud Law, enfin, ça promet du grand acting.
Il avait fait aussi une autre série, j'ai oublié totalement le nom.
Ah oui, The Third Murder.
Peut-être, je sais plus, mais ils avaient fait un live.
Il paraît que c'est fou.
D'une
ouais.
Dizaine d'heures et tout. Enfin, ils avaient fait un premier truc qui s'était jamais fait avant. C'est qu'ils avaient fait une série en live.
Ah oui, ce truc-là.
Ouais.
C'était
sur OCS d'ailleurs.
Bah voilà, en tout cas le mec est bon, hein. on va pas Jud Law.
Ah oui, non, mais de toute façon on n'a pas besoin de refaire sa carrière, mais
ouais,
c'est
mais...
vrai que quand on dit at his best, bon, c'est pas les trois derniers films dans lesquels j'ai vu, c'est quand même Laura Arthur, Les Animaux Fantastiques et Captain Marvel.
Écoute, il faut payer
c'est
son
meilleur rôle.
Il dit dans le film, faut payer son loyer, il faut payer ses impôts aussi, Erwan.
Mais c'est fou ça, les c'est gens vrai. Qui vont chez Marvel, parce qu'il y a eu Mads Mikkelsen aussi qui a été un méchant
dans
Doctor Strange, Jud Law qui est un méchant dans Captain Marvel.
Là, il va y avoir Christian Bale dans le prochain Thor, il va être le méchant.
Avec Russell Crowe aussi.
Ben, moi, je pense qu'il y a deux trucs, c'est que ça doit être hyper amusant de faire des méchants dans ce genre
Kate
de Blanchett,
trucs-là. Dans Thor Ragnarok.
Je pense que juste tu t'éclates à faire au-delà d'être bien payé, tu dois t'éclater de ouf à faire ça, et je pense que quelque part ils ont envie de marquer l'histoire entre guillemets, parce que le projet Marvel, qu'on aime ou qu'on aime pas, c'est quand même un projet de dingue dans l'histoire du cinéma,
ouais.
Et les mecs ils ont envie d'être dans le livre d'histoire, quoi, je pense.
Quand on part de The Nest, on arrive à Marvel, toi. Ils sont forts, hein. Ils sont vraiment
moi c'était
très,
pas
très
la partie Marvel qui m'avait le plus choqué, hein, parce que Les Animaux Fantastiques, bon, j'aime bien, ça va, c'est sympa, mais
c'est lui qui fait Dumbledore,
mais
c'est
l'enchaînement
ça
quand même,
ouais,
Guy Ritchie, Animaux Fantastiques et
Voilà, Marvel, c'est, voilà, puis après on le retrouve sur
pour
des,
un mec comme Jude Law qui a fait quand même
sur des films nids comme The Nest.
Oh,
Denis.
Et on arrive dans la partie qui va annoncer un peu la fin de la BA que j'ai appelé Hey Jude, redescends un peu.
Hey Jude,
calm down parce qu'il a un gros excès de confiance et de pouvoir, lui. Ah ouais, il est là, persuadé, il est dans son délire. Et sa femme lui rappelle que c'est un pauvre qui joue au riche, donc descend un peu. Et moi, ça me fait rire parce que ça m'arrive aussi en soirée. D'être un pauvre qui joue au riche. Ouais, tu sais, c'est passé la happy hour et tout, tu commences à être chaud. Allez, ouais, tournée générale.
Avec le sans contact, ça passe toujours.
Et le dimanche matin, t'es dans ton lit, il y a des papiers éparpillés, des tickets de caisse, et t'es en mode putain, j'ai encore joué le pauvre qui joue au riche.
Ah, d'ailleurs, à ce sujet, je voulais te rappeler une petite anecdote de ta vie, Romain, de pauvre qui jouait au riche.
J'ai peur.
Un jour, tu t'es réveillé le matin, on s'était pris une bonne grosse cuite hein, la veille, et tu m'as dit, Johanna, à quel moment j'ai payé un ticket pour le ciné-concert de... Jurassic Park.
Oui, c'est vrai.
Oh, putain, la vache.
Je remercierai cet excès d'alcool ce soir-là parce que ça m'a permis d'avoir une des meilleures expériences de ma vie où j'ai acheté un ticket comme ça, je sais plus combien, 60 euros pour le ciné-concert Jurassic Park.
Une autre fois bourré, on avait pris des tickets pour le Seigneur des Anneaux.
Ah oui.
Que j'avais fini par annuler une fois ça, bon, j'avais fait ouais, c'était peut-être un peu trop.
Et une fois, t'as acheté une voiture aussi, mais bon, ça t'as regretté.
Ouais, pour revenir à l'anecdote du Seigneur des Anneaux, tu m'avais fait rire, Arwan, parce que du coup, on s'était rendu compte qu'on n'avait pas pris le bon film.
Je sais plus.
On
c'était...
voulait le 3 et on
et
a
en fait,
pris
le 1 ou le 2.
Et du coup, toi, tu lui envoyais un message au gars en disant désolé, on croyait que c'était pour le Hobbit. Nous, c'est tout ce qui nous intéresse.
Ça faisait trop rire et le mec a dit bon, bah c'est pas grave, tant pis, je vous rembourse.
C'est
oh,
marrant.
Te
ça.
Sens pas.
On boit et puis on fait des trucs de ciné-concert.
Ouais. Ça va encore.
Tu sens que la passion est présente, même alcoolisée.
Bon, allez, on termine la BA. On a des plans qui s'enchaînent. Il y a la tension entre le couple et tout, mais on a les plans qui s'enchaînent, la musique qui se tend. Travail, les plans qui s'enchaînent, c'est travail, fête, cheval mort.
Travail, fête, cheval.
Il y a un parti politique.
On a une super
pour
scène
le parti de travail, fête, cheval.
Le cheval ramasser la petite cuillère, quoi. C'est vraiment.
Ouais.
On la pelleteuse.
Non, ce petit plan, ouais, à la pelleteuse là, du cheval mort.
Ouais.
Et moi, j'ai dit, ouais, c'est con parce que je me pose toujours la question, est-ce que du coup, c'est des mannequins de cheval mort ou est-ce que c'est vraiment des chevals morts? Ou des chevaux endormis.
C'est même des chevaux morts.
Oui, tant que je suis
conjugué. Conjugué, je dis. Parler.
Conjugué.
Non, mais je me suis toujours demandé dans les films
bah,
pour les chevaux.
Tu peux plus faire de mal aux animaux, donc c'est forcément.
Ouais,
des...
mais s'il est déjà mort.
Parce que là, il t'a plus de chute.
C'est du recyclage, du coup.
Tu
là,
crois,
ça passe.
Ouais, peut-être.
Là, il le balance d'une
tonteuse.
Non,
à mon avis, c'est. Ça doit être une scène super succincte.
Bon bref, les plans ils s'enchaînent. On a le cut, on a Judd qui crie à la gueule de sa femme parce que je le mérite.
Et c'est notre projet. Et d'ailleurs, t'as un écho de ouf dans cette grande maison vide. Tu l'entends en écho ce qu'il dit.
Je me demande ça si c'est un effet de la bande annonce ou si c'est vraiment dans le film l'espèce d'écho là.
Je crois que cette scène elle n'est pas coupée dans la bande annonce. Je pense qu'on la verra vraiment comme ça avec les gosses qui regardent.
Les gosses qui
l'écho.
Passent une tête pour.
Et il en rajoute une dernière et je le mérite encore plus.
Ce que je veux.
Non.
En tout cas, bref, tu sens qu'il a pris l'ascendant sur sa femme. Il est devenu complètement taré, comme Jack Nicholson dans Shining.
Avec
quoi.
Un bon verre d'alcool à la main aussi. Donc je pense qu'il y a la descente aux enfers.
Toujours un petit brandy dans la main, évidemment, dans ces familles-là. Cut noir, fondu du titre The Nest, sur un beau paysage champêtre. Donc ça vient un peu aussi de dénoter, tu vois. Le nid, le titre le nid, en fait le nid, c'est censé être quelque chose
de calme
confort.
Avant la tempête.
Ouais, c'est ça. Et si je dis pas de bêtises, vu sur le manoir, mais un peu caché derrière des arbres, on voit juste un tout petit bout, comme si c'était mystérieux, secret.
Voyeuriste aussi, un peu, comme s'il y avait un mec qui observait ça de loin, qui regarde ce couple s'effriter, quoi. Un film de Shunderkin, et c'est la fin de la BA.
Et B.
Pour The Nest.
Grosse ambiance.
Un petit mot sur Shunderkin ou pas?
Shunderkin, bah bien sûr, faisons un petit point sur Shunderkin déjà. Qui c'est Shunderkin? Qui c'est celui-là?
Alors je crois que c'est le réalisateur de The Nest. Je suis pas sûr.
Bravo, bon point.
Non, mais il a fait un film qui s'appelle Martha, Marcy, May, Marlène, pas le nom le plus simple du monde. Et que
appelons-le MMMM.
Que j'avais trop envie de voir. C'est le film qui a révélé Elisabeth Olsen, qui est dans WandaVision. Et qui est sur une. Comment dire, les. Que j'ai pas vu, mais qui apparemment parle des sévices dans une secte. C'est pas sévices le mot. Des conséquences du fait que cette fille ait été dans une secte et comment elle essaye de se reconstruire après ça. Et ça avait l'air juste trop bien et j'ai trop envie de voir ce film.
Est-ce que tu as envie de voir celui-là avec cette BA?
Ouais, Carrément. Alors, c'est totalement ma cam. Drame avec un couple qui se déchire, des bons acteurs. Franchement, ça a l'air pas chiant du tout. Il y a l'air d'avoir plein de choses qui se passent. Je m'attends à un truc un peu entre les Noces Rebelles et Shining. Limite, vraiment horreur, quoi. Et j'ai trop, trop envie de voir ça pour les acteurs, quoi.
Moi, du coup, j'ai peur quand ton colocataire dit « Alors, c'est totalement ma cam, drame avec un couple qui se déchire, non, j'adore oui. !»
Attends, bouge pas, je vais me chercher un brandy.
Comment t'accroches ton alliance quand tu dis ça, je sais.
Et toi,
ça te donne envie de le voir, ce film, Johanna, avec la VA?
Oui, franchement, parce que à cause de l'ambiance, je trouve que la bande-annonce arrive à installer une ambiance qui, je pense, sera celle du film pour les comédiens. Et oui, j'aime bien le fait qu'ils installent vachement des codes de films d'horreur, mais que ça, je pense que ça va être une horreur entre guillemets familiale
et intime. Ouais.
C'est vrai qu'elle est bien construite, ouais. La BA par rapport à ça. Moi, je trouve que la tension, elle monte bien et tout. C'est bien cuté au bon moment. Il y a un bon rythme. Parce que, on est devenu des analyses de BA, attention. Mais je trouve que c'est bien foutu. Ouais, c'est vrai qu'il y a des codes de films d'horreur. Tu pourrais mettre des images de Blair Witch ou d'autres films d'horreur et tout. Ça marche. On pourrait refaire, juste reprendre ce machin-là et tu suèdes le truc, je sais plus comment on dit, tu pars
suédé. Ça,
je
suis suédé, ouais.
Et toi, ouais, Erwan?
Parce qu'on est spécialiste de BA, mais aussi de couture. C'est pour ça.
Et donc, absolument.
Alors, moi, en fait, j'attends le film vraiment sur, comme vous l'avez dit, sur ce côté horreur. En fait, si on en reste là, avec ce que la BA nous montre, c'est-à-dire juste un drame un peu familial, moi, ça m'a fait un peu penser à Marriage Story ou ce genre de film, sur la descente aux enfers d'un couple.
Noces Rebelles, Marriage Story.
Je risque de me faire un peu chier. Mais par contre, il nous donne des attentes un peu, il nous excite un peu pas mal sur le côté un peu thriller, justement le côté épouvante. Enfin, est-ce qu'ils vont jouer avec ce manoir vide, entier, énorme, avec des enfants qui sont un peu présents en arrière, avec cette femme un peu apeurée, lui un peu alcoolique? Est-ce que vraiment on va aller un peu dans le trash, ou est-ce qu'on va rester juste sur du psycho un peu blabla?
Qu'il y a un moment, ils franchissent le point de non-retour, quoi.
Ouais, est-ce que... Il faut le dire, est-ce qu'il va y avoir de la violence, quoi?
Ouais. Même si c'est de la violence psychologique, est-ce qu'il va y avoir du... Voilà, les codes du thriller, un peu, de la course-poursuite, du...
Dans le labyrinthe, glacé, à la fin. Voilà, <c'est... rire>
et on marche en arrière et tout. Pour... Non, mais voilà. Est-ce qu'on va dépasser ça, ou est-ce qu'on va juste avoir ce que la violence nous montre? En fait, c'est... Est-ce qu'il y a... Ouais.
Bah, moi, c'est justement, c'est pour rejoindre sur mon avis sur la BA, en fait, c'est ce qui me fait peur, c'est l'attente qu'elle nous procure. Et j'ai peur, en fait, que ce film, nous, avec cette BA, nous douille déjà. Ouais. C'est ma seule peur, parce qu'elle est super bien construite et tout, mais ça, étiré sur un film, j'ai peur qu'on se fasse chier, quoi.
Parce que Marriage Story, il avait cet avantage d'avoir un peu une trame un peu hollywoodienne, un peu à l'américaine, avec à côté son boulot d'acteur. Enfin, tu sais, il y avait plein de petits trucs qui faisaient que, du coup, tu t'ennuyais pas. Là, ils sont quand même 2-4 dans une maison,
huis clos, ouais.
Ouais, ça peut être vite un peu chiant, quoi. Ils font que de parler.
C'est ce qui me fait peur. C'est vraiment ce qui me fait peur. Écoutez, on verra ça. Le film est déjà sorti sur la plateforme VOD de Canal+, pardon. Plus, ouais. Donc on se précipitera.
Ça devait sortir en salle, hein, faut préciser. Hein. Ouais, c'est une avant-première Canal+, mais c'était prévu pour sortir en salle.
Beaucoup de films maintenant passent par la case VOD, hein, y a plus le choix, hein, à force d'attendre. Sinon,
est-ce que ça sortira ou pas?
Je sais que Judas and the Black Messiah, ça y est, il est sorti en VOD, ils ont abandonné la salle, quoi. Qui est nommé aux Oscars.
Ouais, ça se fait de plus en plus, hein, là, ils ont abandonné, après, dans un autre genre, hein, mais Mortal Kombat, des trucs comme ça et tout, qui étaient censés. Ouais. Raya, qui était censé sortir en salle aussi, c'est fini, le prochain Pixar qui sortira pas en salle.
Il y a vraiment deux écoles, hein. C'est ceux qui attendent et ceux qui se disent « bon bah, nique, on y va ».
En tout cas, le film, il a marqué le festival Sundance 2020, à l'époque où il y avait encore des festivals.
Jadis.
Et ce festival Sundance, mine de rien, on en a vu des films qui sont arrivés là, qui sont passés par la case Sundance, donc films indépendants. Tu vas nous en parler, indépendant américain, oui. Tu vas nous en parler, Johanna, mais c'est souvent aussi une espèce de tremplin vers les Oscars et vers une très belle carrière. Hein. Je crois pour beaucoup de réals qui sont passés par Sundance aujourd'hui, on en parle en mode Hollywood, mais ils ont commencé par là. N'est-ce pas, Johanna?
Tout à fait. Mais d'ailleurs, tu parlais de films qui est aux Oscars. Ben, vu que les Oscars ce soir, il y a Creep Camp, le documentaire, qui a été primé prix du public à Sundance. Qui ce soir est en course pour être meilleur documentaire aux Oscars. Donc ça illustre parfaitement ce que tu venais de dire.
Le documentaire produit par le mythique couple Obama.
Oui. Barack et Michelle.
Yeah.
Ah, c'est celui-là?
Ouais.
Ah, oui.
Alors, Sundance, mais
qu'est-ce que ce festival Danse du Soleil?
Alors, comme son nom l'indique,
<Truc de hippie. rire>
comme son nom l'indique, pas du tout. Alors, ça se passe pas du tout en été, ça se passe en hiver, et c'est pas un festival de dance ni de danse d'ailleurs.
On est déçus.
Et c'est pas non plus un festival de jazz, même si ça se passe dans l'Utah. C'est pour toi.
Oh, ouais. Oh, Utah Jazz.
Black
yes,
de basket.
Ah, c'est pour ça que j'ai pas compris.
Alors, ça se passe une fois par an à Park City et Salt Lake City. Et c'est un festival de cinéma qui date de 1978 s'appelait pas du tout Sundance avant. Il s'appelait le Utah US Film Festival.
Ouais, c'est mieux. Ils sont quand même mis autour d'une table en disant ouais, Utah US Film Festival.
Mais au moins, on sait ce que c'est.
Alors, faut savoir qu'au départ, c'est un festival très local. Qui diffuse des rétrospectives de films et des courts-métrages et longs-métrages réalisés en dehors du système hollywoodien. Et ça prend sa forme actuelle quand M. Robert Redford met son grain de sel dedans, parce qu'en tant qu'habitant du coin, il devient le président du festival. L'organisation est confiée à une association qui s'appelle Sundance Institute, et le festival est rebaptisé Sundance Film Festival en case dédiée à Robert Redford. Pourquoi on dédicace à Robert ? À Robert Redford, à votre avis. C'est en dédicace à un de ses rôles.
Ah, il a fait un film où il danse avec le soleil.
Non, mais
c'est pas mes westerns, danse avec le soleil.
Bon, après, c'est complexe parce que ça tient au titre américain. Au fait, c'est une dédicace à son rôle dans Butch, Cassidy et le Kid. Parce qu'en anglais, le titre, c'est And the Sundance Kid.
Okay, d'accord.
Et du coup, ils ont fusionné les deux, le nom de l'association, ce rôle, et ils lui ont fait une grosse dédicace.
Bien honoré.
Ouais, putain, franchement.
Ils auraient pu donner un nom de rue ou un nom d'école, non ? Ils ont donné un nom de festival.
Ça a failli s'appeler les choses qu'on dit, les choses qu'on fait festival.
C'était trop long.
Alors, c'est un festival donc, avec une sélection qui est très pointue, qui a vocation à mettre en lumière des films et des réalisateurs indépendants, donc comme je vous disais, en dehors du système hollywoodien, et qui a vocation, comme tu disais, à ouvrir la voie à des réalisateurs des films, des artistes qui deviendront cultes après dans leur génération. Ils ont été un peu précurseurs en donnant un petit tremplin à des réals qu'on adore maintenant. Allez, je vous fais un petit quiz. Si je vous dis Kevin Smith.
Clerks.
Ouais. Exactement, il a été meilleur réalisateur à Sundance.
Ah, il était à Sundance, Clerks ?
Ouais.
Ah, je savais même pas.
Et Stranger Than Paradise.
C'est Jarmusch ?
Jim Jarmusch, ouais. 100%.
100%
vegan, c'est autonomité.
Alors, c'est 100%, mais qui s'écrit comme le sang. S-A-N-G.
Blood for Blood.
Ah, c'est pas les Cohen.
C'est pas... ça, c'est les Cohen, exactement. Ah, oui. Et qui ont eu donc meilleur film dramatique en 85.
C'était pas un des deux Cohen. Alors, c'est Joel Cohen.
Ouais. Et son frère était le producteur de ce film.
Il faut bien rappeler aussi qu'il est film indépendant. Donc c'est pas Warner, c'est pas
Spielberg.
Alors
ou
c'est souvent les premiers films ou les deuxièmes films de ces réals-là qui ont été faits avec un budget, un très petit budget. Quoi. Alors si je vous dis, allez encore, c'est un peu le quiz, prix du public en 89.
Alors
je vous donne un indice, le réalisateur de ce film est le producteur des Oscars cette année.
Trafic ?
Non, Sexe, mensonge et vidéo.
Ah,
exactement.
Et la Palme d'Or.
C'est ça, c'est aussi lui qui a propulsé Bryan Singer. Avec Ennemi public, donc c'est le film qu'il a fait avant Usual Suspect.
Okay.
Si je vous dis El Mariachi.
Je connais Machete.
Quoi,
Rodriguez ?
C'est Rodriguez.
Mais
non, fait,
putain, énorme.
Qui a été prix du public en 90. Alors, essayez de deviner qui était grand prix du jury en 92. 92. Et un des réalisateurs les plus cultes.
Tarantino.
Exactement. Avec Réservoir Dogs. Si je vous dis Poison. Un film qui s'appelle Poison.
Covid.
Emmanuel Mouret.
Alors, c'est Todd Haynes qui a été grand prix en 91. Putain. Alors plus récemment, allez, je vous dis les films, vous me donnez les réals. Il y a eu Little Miss Sunshine.
Bah, j'ai pas les réals, mais je sais que c'est une femme et un homme.
C'est ça, Jonathan Dayton et Valérie Faris. Memento.
Nolan.
Nolan.
Pi.
Aronofsky.
Precious.
Lee Daniels. Oui, c'est ça. Jeff Daniels.
Ouais.
Lee Daniels.
Ouais. Les Bêtes du Sud Sauvage.
Ben Zitlin, il s'appelle.
C'est ça, Whiplash.
Chazelle, Damien Chazelle.
Et alors, petit cocorico, l'année dernière, le film Mignonne de Maïmouna Doucouré a eu un prix de réalisation à Sundance.
Putain.
Ah, mais je croyais que c'était réservé qu'au film américain.
Non, en fait, il y a une sélection américaine et une sélection internationale.
D'accord.
Alors c'est un peu le bordel pour trouver. J'ai essayé de trouver un peu s'il y avait eu plus de films européens ou français, mais j'ai un peu galéré à trouver, je vous avoue. Et juste pour la fin, qu'on rigole un peu, parce que j'ai été grandement surprise là, en regardant les récompenses 2021. Si je vous dis Coda, c'est le nom du film, qu'est-ce que ça vous inspire?
Personne n'a la ref, frère des ours, bon, voilà, rien à voir.
Qu'est-ce que ça vous c'est un acronyme, c'est ça qu'on dit quand c'est Coda, des syllabes. Ouais, c'est un acronyme.
Coda, c'est le singe dans Planète des singes.
Non, ça veut dire...
Non, c'est Coba, bref.
Ça veut dire child of, comment on dit, sourd, deaf adults. Donc c'est des enfants de personnes malentendantes. Et en fait,
comment il s'appelle ?
C'est un film qui a tout raflé cette année. Enfin, il a eu le grand prix, le prix de la mise en scène, c'est et le meilleur casting. Et vous savez ce que c'est, ce film ?
La famille Bélier.
C'est exactement. Ça, c'est le remake, c'est le remake de américain de la famille Bélier. Tout raflé cette année. Donc peut-être le verra-t-on aux Oscars l'année prochaine.
Avec Karine Viard ou sans Karine Viard ?
Non.
Avec Louane ou pas ?
Ils ont jeté tous les Français là, ils ont mis des...
I love Louane.
Mais parce que du coup, comment il s'appelle ? François Damiens, il n'est pas français, donc ça passe, il reste... Il est belge.
Coda, ça s'appelle le film ?
Oui, Coda.
Coda.
Ils auraient dû appeler ça de Bélier Family, mais pas du tout.
Non. Coda.
The Bélier Family.
Je savais même pas qu'ils avaient fait un remake.
Mais je savais pas non plus.
Après, le remake est peut-être mieux que le film.
Ça m'a tellement... Bon, après, moi, j'ai pas vu la famille Bélier, mais ça m'a étonné.
Ouais, c'était pas mal, la famille Bélier.
C'est marrant, parce que généralement, les Américains, quand ils font des remakes de films français, c'est encore pire que... Ouais.
Bah, souvent, ouais, genre le Dîner de con.
Là, ils ont fait Intouchables, j'ai pas vu.
Ouais, avec Brian Cranston et Kevin Hart. Non, c'est Kevin Hart.
Ah, c'est Kevin Hart.
J'ai commencé à regarder, c'était... Franchement, bah...
Non, généralement, c'est...
Après, François Cluzet, c'est dur de passer, quoi. Et Omar Sy. Bah super, bah en fait, okay. Ouais, on se rend compte, tu vois, Damien Chazelle, par exemple, moi, c'est celui qui me venait directement à l'esprit parce que Whiplash, il est arrivé de là et puis bah, direct la case Oscar. Hein,
ouais, ce c'est ça, exactement.
La Papi
Nani,
et puis après, on connaît hein, La La Land, First Man, bref, le mec, à chaque fois qu'il fait un film, il y est. Par contre, je savais pas pour Rodriguez.
Rodriguez, Tarantino ouais. Nolan, Bryan Singer.
Quand tu repenses, Tarantino, ça fait sens en fait.
Ouais, mais carrément.
Mais j'étais persuadé que ce festival de films avait été créé fin 90.
Tu vois, pareil, je pensais que c'était récent.
Mais je pense qu'on a commencé à... Il a peut-être commencé à être très médiatisé dans ces années-là aussi. Je pense
quand il a eu Redford.
C'est ça, il a dû avoir ses débuts. Je crois que Redford, il arrive au milieu des années 80 dans l'histoire. Et je crois que c'est vers 85 que ça commence à prendre la forme qu'on connaît maintenant. Donc je pense que ça a pris le temps de prendre son envol parce que, comme je vous disais, c'était très local et c'était des rétrospectives surtout. Et lui, je pense que sa présence a fait que ça a ouvert le festival et que des plus d'Américains, de réels indépendants américains sont venus passer une tête à Sundance, quoi.
En tout cas, c'est cool que ça existe, franchement.
C'est clair. Et je vais faire une précision aussi sur The Nest. Il a eu 3 prix à Deauville en France. Il a eu le Grand Prix, le prix de la critique internationale et le prix de la révélation. Voilà.
Ouais, sachant que Deauville aussi, ça, en général, ça sent bon aussi pour la suite des festivals.
Bah, on dirait un peu un étirement de Sundance. Ouais. Quoi. C'est plus américain du coup, parce que c'est vraiment le festival du film américain. Mais c'est souvent des films qui viennent de Sundance en fait du coup. Parce qu'il est habitué, Shunderkin, elle avait pris la mise en scène pour Martha, Marius et César là.
Marius et César.
Ok, bah écoutez, bah nous on va voir ce que ça donne The Nest du coup. Si c'est très Sundance, je pense que ça peut plaire parce que on aime ça en fait au fond, on se rend compte.
Ben,
on se rend compte qu'il y a beaucoup de réals qu'on aime qui sont arrivés de là. Merci Johanna pour cette théma.
Je t'en prie, j'ai appris plein de choses.
Bah,
carrément.
Bah, j'ai trop envie de voir maintenant moi ce remake de la famille Bélier.
Ouais, moi aussi ça m'a
appris. J'avoue, c'est intriguant.
En tout cas, voilà, ça c'était nos attentes sur le film The Nest que vous avez eu là. Est-ce que on a des attentes des internautes aujourd'hui, Clémence?
Alors, comme ça, Clémence.
Où es-tu? Bah
ouais, elle est silencieuse depuis le début.
Pas de comme si comme ça pour cet épisode parce que bah Clémence elle est pas là puis c'est sa rubrique. Ce serait un peu.
Oui, t'en avais un peu la flemme.
La flemme quoi.
Parce qu'on t'a proposé de le faire.
Pas du tout, c'est par respect pour Clémence.
Merci Clément, c'est totalement ça. Ça n'a rien à voir avec la flemme, les gars. C'était
chacun
vraiment...
sa rubrique et les vaches seront bien gardées.
Ouais, c'est vrai.
Voilà. Mm. Hein. Du coup, The Nest, le nid, traduit en français.
Ah, c'est pas. T'en penses quoi de ce titre?
Ouais,
j'en ai marre de faire cette blague.
On a le sujet, on n'a pas le verbe, on n'a pas le complément.
Je sais pas si vous voyez la tête de Romain.
On a le sujet, on n'a pas le verbe.
Hein, Shunderkin? Tu nous fais Martha Machin et compagnie avant, après tu nous fais The Nest. C'est flemmard tout ça.
Martha Machin et compagnie.
Donc moi j'ai envie qu'on renomme ce film, qu'on le retitre.
Allez.
Avec la rubrique Tu fais ton titre.
Fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre.
Le fait ton titre, la rubrique qui va permettre de renommer, de nous trouver un nouveau titre à The Nest, qui est beaucoup trop banal pour nous autour de la table. Allez, qui commence, Erwan? J'ai envie de te laisser la parole aujourd'hui. Ça fait longtemps que t'étais pas avec nous.
Bah écoute, comme il n'y a pas Kevin, j'ai peut-être une chance, hein, ouais, cette fois.
C'est vrai que c'est notre...
Même si je lui ai raflé la dernière fois.
C'est le master sur la rubrique, c'est Kevin.
Alors, j'en ai deux. Alors, le premier, donc on est d'accord qu'on sait pas du tout où ça se passe, hein. Ça pourrait être n'importe où. On distingue l'accent anglais de Jude Law. C'est des acteurs anglais.
O'Hara, ça fait irlandais.
Ouais,
ça fait
irlandais. J'ai vraiment l'impression que c'est dans la campagne anglaise.
Mais on va faire comme si on savait vraiment pas.
D'accord. Je ne sais pas de quoi tu parles.
Et alors, mon premier titre, c'est ce que j'ai cherché forcément, hein, tout ce qui rimait avec Est. T'as The Rest, The Best, The Vest. Et j'ai finalement choisi Brest.
Ça peut être en Bretagne.
Attention,
en Grande-Bretagne.
Oui, mais j'ai une catchphrase qui va avec. Quand le gris de l'extérieur s'installe à l'intérieur.
Oh, allez, c'est ta catchphrase.
Parce qu'on est sur une ambiance assez grise quand même. C'est très marron, très
Brest.
Gris.
Enfin,
très...
C'est cool.
Tu ne travaillerais pas à Sundance par hasard.
The Brest.
The best of the Brest.
Ok, j'aime bien.
Voilà.
Belle catchphrase.
La catchphrase est vraiment cool.
Erwan Rimbaud.
J'ai joué un peu sur l'image, voilà, qui est un peu terne.
Non, fais pas trop non plus. On a dit que c'était bien.
Et mon deuxième, c'est on retombe dans le jeu de mots un peu plus brutal. L'Exode 1000.
Oh,
un bon bol d'air frais ne peut pas vous faire de mal.
Oh, il y a du high level.
Pas mal.
L'Exode.
J'aime bien le titre. J'aime plus le titre.
Là, on
que
est plus sur le côté le mec qui arrive.
Et la catchphrase qui surfe encore avec l'air, comme pour notre épisode précédent. Je pense que c'est fait exprès, ça, non? Pas du tout, apparemment. Super, Clément, des titres.
Ouais. Alors, j'en ai un qui vient de me venir, donc attends, je le note. Je vais pas gagner, clairement, mais après The Leftovers, Carrie Coon dans The Rest. Puisque les leftovers, ça veut dire les restes en français.
Ah oui, j'avais fait cette blague d'ailleurs pendant l'épisode reprise de Covid.
C'est vrai.
Fais ton bilan.
Et sinon, j'ai ils vont se dire, donc la catchphrase, ils vont se dire leurs quatre vérités et mon titre, c'est Honnête.
Oh,
c'est marrant comment vous
avec
avez...
Avec un petit apostrophe, ouais. Comme
vous avez échangé cette idée sans le savoir de faire rimer
le film
avec Est.
Clément.
On est très connectés.
Gare de l'Est, ça marche.
Ils vont beaucoup voyager. Gare de l'Est.
Un autre, peut-être, celui que tu viens d'avoir, c'est lequel?
Non, c'était celui-là.
Ah, t'en avais qu'un.
C'est fini.
T'en es pas du tout connecté, tu m'as menti.
je vais peut-être donner mes titres parce qu'on on m'a murmuré en off que c'était Johanna qui prenait le titre.
Non, mais avec ça va pas te plaire. Erwan, il a mis un gros level.
Avec Exode 1000.
J'ai pas fait exprès.
Ouais, j'ai kiffé.
Alors moi, j'ai deux titres.
Vas-y.
Alors il y en a un, il est un peu capillotracté, hein, comme d'habitude. Comme il y a juste des chevaux, un cheval, j'aurais appelé ça, pour faire référence à un autre film, La femme qui murmurait à l'oreille de Jude Law.
Ça rime avec le titre original.
C'est énorme.
Et j'ai toujours mon petit titre musical là qui me suit depuis quelques épisodes.
Ouais. Origins.
Non, mon deuxième titre.
Batman Origins.
Hey Jude, don't break it bad.
Ah.
Parce qu'il a l'air de péter
un câble.
Ça marche
quand on chante.
Bah voilà. Hey Jude, don't break it bad, évidemment, pour faire référence aux Beatles et à Walter
White. La meilleure série.
White.
De tous les temps
et de tous les univers parallèles.
Johanna.
Johanna casse le game, apparemment.
Oh, la pression.
Arrête de teaser comme ça.
Un gros FBA.
Alors j'ai deux titres. Il y en a un, tu vas me dire, ouais, c'est trop en anglais et tout. Alors c'est comme c'est une grande maison, c'est Super Nest. Pour faire référence à la console, sachant que le slogan de la console, c'était « There is no play like it », et là, ce serait « There is no place like it ». Et mon deuxième titre, dont je suis très fier et qui a une référence à une série américaine qu'on connaît tous, comme il y a Jude Law qui joue dedans et que ça a l'air d'être le chaos, ce serait « Law and Disorder
».
En référence à « Law and Order ».
Low
New York Unité Spéciale.
Non, pas du
non,
tout.
C'est pas ça ?
C'est New York District.
Oh, pardon.
Enfin, une unité spéciale pour victimes.
Oh,
il y en a trois.
Moi, Law and Disorder, j'aime beaucoup.
Law and Disorder.
Ouais, mais t'es pas partiel.
C'est vrai que ça fait sens, hein, Law and Disorder. J'ai besoin de réfléchir. Bon, déjà, Clément, bon, t'es d'accord pour venir avec moi dans le clan des éliminés?
Ouais.
Non, je veux te féliciter, Romain, parce que tu n'as pas tenté un titre avec Origins dedans.
C'est déjà... Genre, ça aurait pu être Divorce Origins.
Ouais, c'est une belle évolution. T'as parlé de Joker et de Batman pendant tout le truc. T'aurais pu dire Joker Origins.
Les origines, il faut savoir s'en écarter pour mieux y revenir.
Oui, c'est vrai.
Moi, j'aime bien la catchphrase d'Erwan. Est-ce qu'elle va avec ton titre? C'était quoi ta catchphrase?
C'était quand le gris s'installe. Non. Quand le gris de l'intérieur s'installe à l'extérieur. Non, quand le gris de l'extérieur s'installe à l'intérieur.
Franchement, ça marche.
Mais non. Ça va avec Brest, mais parce qu'il faut être un peu breton. Pour...
Non, Brest, c'est abusé.
L'exode nil, law and disorder, quand le gris s'installe, gare de l'Est.
Le mec, il est vraiment tout... en train de considérer il... gare de l'Est.
il refait non, tout son trajet. Gare de l'Est, correspondance.
Oh, si je prends la 4, je descends.
Ah là là, je suis dans un embarras.
Après, Gare de l'Est, tu vas vers la campagne. Hein. Là-bas, il y a des grandes...
Il y a Brest.
Non, mais l'Exode 1000, ça fait sens parce que c'est déménagement. Il faut se calmer. Donc, du
j'avoue,
coup,
c'est bien l'Exode 1000. Ouais.
Law and Disorder, ça fait encore plus sens parce que... Bah,
ou alors Law and Disorder en 4 fraises.
Ah, moi, je vois plus en titre Law and Disorder.
Ok.
Bon, allez, va pour Law and Disorder.
Bravo.
Merci, bravo, je voudrais remercier ma mère.
Ça m'énerve parce que t'avais un super titre, Erwan.
Non, ouais, l'Exode 1000, c'était...
Je le mettrai sur mon CV. Je le mettrai deuxième place.
L'Exode 1000.
Rien n'empêche de mettre en catchphrase.
L'Exode 1000 de Judd de Carr.
Oui,
parce
que ouais, tu vois, c'est que tu demanderas à Bruno de me faire une affiche personnalisée.
Non, attends,
dans ma chambre.
Attends, regarde. On met l'Exode 1000 de Judd Carr.
Ah, ça peut être la boîte de prod. L'Exode 1000 Presents. Law and Disorder.
Genre, le titre c'est Law and Disorder et la catchphrase l'Exode 1000 de Jude et Carrie.
Ouais.
Ok.
Ouais.
Moi
ouais,
j'aime bien.
On retrouvera un truc.
Ouais, vous verrez sur l'affiche. Ouais. Vous voilà. Allez commencer à me casser les couilles là.
Vous faites chier à être intelligent.
Écoutez, Law and Disorder, ce sera le titre. L'Exode 1000 qu'on calera quelque part parce que je la trouve trop bien et j'ai pas envie de la quitter. Cette petite catchphrase. Bah bravo à vous. On va dire que vous avez gagné. Vous avez le droit de désigner parmi.
Je suis content d'avoir gagné avec Errol.
Parmi Clément et moi, qui résumera le film du match retour? Parce que match retour, on se fera évidemment The Nest dans l'épisode suivant. Mais aujourd'hui, il est question de repartir dans l'espace, de renfiler la combi, d'aller vers Mars pour Le Passager numéro 4 de Joe Pena, un film Netflix. Match retour, right now.
DJ, kick that shit.
Ça te fait mal quand on te tire dessus?
Je ressens les blessures. La douleur est une simple information.
Votre discours était très éclairant.
Très éclairant? C'est du blabla, oui.
T'intéresses à qui? T'intéresses à quoi, toi? Est-ce que t'en as de la considération?
Tu déconnes, non? T'as aucune notion, t'as fait 40 films, t'as même pas assimilé un minimum de technique. T'es nul!
Le match retour du Passager numéro 4, un film de Joe Pena sorti sur Netflix et qui nous embarque vers Mars dans une mission à 3, mais qui au final est à 4. Alors, qu'est-ce que ça donne ce film? On va vous en parler tout de suite, mais d'abord, il va falloir que je résume, comme d'habitude, l'histoire qu'on s'était imaginée à partir de sa BA dans l'épisode précédent. Vous êtes prêts?
Allez.
C'est parti. Après une grosse soirée bien arrosée, Michael Régis, un ingénieur en propulsion, s'endort dans un placard et se réveille dans l'espace.
Ce prénom.
Paniqué, il panique. Heureusement, Anna Kendrick lui porte secours et lui apprend que malheureusement, il ne pourra pas rentrer à la maison voir sa sœur car le volant de demi-tour est totalement cassé.
C'est vrai, il est cassé.
Culasse.
Et puis décidément, c'est pas de chance pour Michael Régis. Il vient juste de rater le filet mignon. De malheur en malheur. De Caribe dans Scylla, comme on dit dans le jargon. Anna Kendrick lui présente l'équipage, Toni Collette, la maman des enfants chelous du cinéma, Daniel Daekim, le gars de Lost, et elle-même actrice de mauvais films. Et problème... Et problème, eux plus lui, risquent de s'étouffer car le taux d'oxygène n'était pas prévu pour 4 paires de poumons. Mais ce sont des scientifiques et rien ne peut les arrêter. Ils ont la solution. Pour survivre ensemble, ils devront faire appel au pole dance power. Car oui, seul le pole dance pourra les sauver. Seul le pole dance peut leur permettre de faire demi-tour. Si ensemble ils s'entraînent assez dur, si ensemble ils tournent dans le même sens, la force centrifuge fera le reste. Bien et sûr. Ils seront sauvés. Rappelons que c'est des scientifiques. Mais c'était sans compter sur la présence d'un cinquième passager bien caché. Elle déboulonne à tort, qui déboulonne tout sur son passage et jouera sur les nerfs de cet équipage qui ne manque pas d'air. Enfin si.
Oh.
Voilà, voilà.
J'aurais tellement aimé voir ce film.
Bah, nous avons vu un tout autre film, apparemment. Il serait peut-être temps de le résumer, hein, pour ce qui est de la vraie réalité, de la vraie chose. Johanna, Erwan, concertez-vous et désignez qui de nous deux, Clément et moi, allons résumer le film.
Est-ce qu'on leur ferait pas faire une phrase chacun?
Oh.
Oh,
je l'ai fait une fois avec Clément, c'était ludique. Ouais.
On a le droit de faire ça?
Vous faites une phrase chacun.
Ils font ce qu'ils veulent, ils ont gagné.
Allez, une
alors,
phrase
sujet,
chaque.
Verbe, complément. Chacun, sujet, verbe, complément, et après ça passe à l'autre.
Non, c'est trop dur ça. ok. Alors, c'est l'histoire d'une mission Hyperion, si j'ai bien compris. En fait, c'est pas du tout de NASA d'ailleurs dans le film. Hein. C'est jamais cité, je crois.
Bah, c'est
NASA.
Le nom de la NASA en fait. Ouais. Hyperion.
C'est ça. En fait, Hyperion, c'est NASA. En fait, une mission Hyperion qui est à destination de Mars. Je crois pas que ce soit la première, si j'ai bien compris le film. Qui embarque Toni Collette, Anna Kendrick et Daniel Dae-Kim, un botaniste, une médecin et un commandant qui a du galon déjà, qui a déjà piloté pas mal de navettes, vers Mars. Jusqu'à ce qu'il
découvre une tache de sang au sol et qui en fait résulte de la présence d'un passager évanoui dans une trappe qui a été vissée, donc on ne sait pas. Comment et donc, en dévissant cette trappe, il y a un passager qui tombe. Et donc, ce passager va poser des problèmes, non pas par son comportement, parce qu'il est très gentil et il est très volontaire et il a envie de s'impliquer et d'apprendre à devenir un vrai cosmonaute, mais par sa présence, parce que le simple fait qu'il respire est un problème. Pourquoi ? Parce que dans sa chute, il a cassé la machine, je n'ai pas meilleure explication, qui sert à faire de l'oxygène.
Exactement.
À filtrer le CO2.
Et ainsi, ils vont devoir trouver des solutions. Donc, le botaniste a des solutions par rapport aux algues, par rapport aux plantes. La médecin est là pour un peu calmer les choses. Le commandant, oui, parce que dans la chute, elle s'est pété le bras.
Oui.
Ça, on aurait pu le remarquer dans la berme, on n'avait pas fait attention, mais elle a une attelle en imprimante 3D là, qui a été faite pour Toni Collette. Donc, du coup, elle est un peu paralysée, un peu pénalisée, quoi. Elle ne peut pas faire trop de choses. Et en fait, tout le film va tourner autour de ça, trouver la solution pour. Pour ne pas en sacrifier un, en fait. Parce qu'il n'y a que de l'air pour trois, quoi. Et c'était c'est déjà, bien. En plus, une navette prévue pour deux, à la base. Ça, on l'a
oui, plus comme elle va vers Mars, c'est pas vers trois. Du coup...
Il y a une navette pour trois dans 5 minutes. Voie B.
Et puis...
Oui, voilà, c'est ça.
Voilà, et puis on va spoiler, je pense, un peu le
on
film.
Spoil
oui, on va...
Ouvre la page spoil.
On aura un petit taux de spoil, et puis ben...
Ça va pas très bien se passer.
Voilà, mettez pause, allez voir le film si vous n'avez pas encore vu le film, mais y aura sacrifice
ouais.
De la grande Anna.
Et oui.
Pour permettre ce voyage vers Mars. Voilà pour ce qui est du passager numéro 4. Est-ce que c'est bien résumé?
Oui, tout à
on
fait.
Est content.
Les jurés.
Combien d'étoiles dans Gravier Magazine? Gravier
de
Cinéma?
Deux cailloux et demi, la moyenne.
Attends, c'est pas
terrible, il est un peu dur.
Oui, mais parce que les graviers du cinéma, c'est un canard
dur,
qui se respecte.
Comme
hein.
La pierre.
Mais bon, nous, on va se faire le douille-ou-pas-douille qui va nous permettre de relier la BA qu'on a vue dans l'épisode précédent au film. Douille-ou-pas-douille.
C'était une douille.
Douille-ou-pas-douille.
C'était pas une douille.
Le douille-ou-pas-douille qui va nous simplement nous permettre de savoir si la BA nous a envoyé vers une douille ou une douille positive ou pas douille du tout. Qu'en est-il ? Allez, Johanna, commence. Douille-ou-pas-douille.
Semi-douille. Parce que la BA est assez fidèle à l'histoire qu'on a vue, mais elle pouvait laisser entendre qu'il allait se passer d'autres... Enfin, que ça allait dépasser ce sujet-là, et au fait, non.
Erwan ?
J'ai envie de dire pas douille. Parce que bah, du coup, en voyant la BA, bon, tu te dis que c'est encore un énième film dans l'espace où ils vont être confrontés à un problème et ils vont essayer de le résoudre. Ils sont confrontés à un problème, ils vont essayer de le résoudre, et ils arrivent à le résoudre malgré quelques pertes, mais bon, c'est pas... Voilà.
Cette personne n'a aucune empathie.
Pour lui, non, les gens, c'est des marchés, c'est des risques.
C'est ça.
Je l'ai dit un truc, en plus, la perte, c'est le médecin, quoi. Donc, bonne chance pour les 2 ans de voyage
ouais,
qui restent.
Pour les 2 ans de voyage qui restent, ouais.
Clément.
Avec un bras dans le plâtre.
Ouais. Douille ou pas douille.
Moi, je dirais pas douille dans le sens où les enjeux, c'est ce que tu disais, Johanna, sont vraiment les mêmes que dans la BA, que j'avais pas aimé, j'ai pas non plus aimé le film. Donc, voilà, je me suis pas fait douiller. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a une douille parce que j'ai l'impression qu'il y avait des plans qui sont pas dans le film. Romain, est-ce que ça te dit quelque chose? Ils atterrissaient pas quelque part dans
j'ai
la BA?
J'ai déjà plus le souvenir de la BA.
Il me semble qu'ils atterrissaient quelque part et même qu'on s'était dit à la fin ils arrivent sur Mars. Enfin, c'était
je crois que
question.
C'est William avec le manque d'oxygène qui a déliré.
Moi, je sais pas, j'ai eu cette impression. À vérifier.
Quant à moi, pas douille. parce que j'avais bien aimé la BA et puis j'ai pas détesté le film. Enfin, j'ai bien aimé, attention, tout est relatif. Hein, ça reste une BA d'un film Netflix moyen sur l'espace. On va en reparler, hein, mais techniquement, je trouve que c'est pas dingo. Et puis, bah, je m'attendais un peu à ce genre de film. Et puis, en fait, j'ai eu ce que j'avais, quoi. Donc, un film sans beaucoup de qualité, sans beaucoup de défauts. Moyen, un film moyen.
Oui, c'est moyen.
C'est un peu l'OGC Nice du cinéma.
Eh oh, ça fait mal.
Je suis en colère contre Nice.
Qu'est-ce qu'il en est de nos avis? Eh ben... Qui veut ouvrir la page du débat sur ce chef-d'œuvre du film spatial?
Ben moi, je veux bien.
Allez, Johanna, lance-toi.
Alors,
dans le vide sidéral.
J'ai bien aimé le début du film. Pendant toute la mise en place, l'installation de l'ambiance et de la vie sur le vaisseau, j'étais vraiment avec eux. Et au fait, à partir du moment où le passager arrive, j'ai trouvé le personnage un peu lisse. J'ai trouvé qu'il y avait un problème de rythme, c'est que le rythme ne change jamais pendant le film. Donc ça fait qu'on est tout le temps en train de jouer la même note du début jusqu'à la fin. Enfin, en tout cas, c'est le sentiment que j'ai eu. Toute la partie, il faut qu'on sacrifie quelqu'un éventuellement pour survivre. Ça n'a pas marché sur moi parce que comme on ne prend pas le temps de développer un peu les personnages, mais c'est le format qui fait ça, en fait, je n'ai pas eu d'empathie spéciale pour eux. Et du coup, je m'en foutais un peu qu'on sacrifie quelqu'un, à part le fait qu'ils sont tous sympas et que tu te dis c'est un peu, enfin, c'est un peu horrible de devoir sacrifier quelqu'un. Voilà, ça m'a pas touché plus que ça. Je suis restée sur ma faim, au fait.
Je crois qu'on peut expliquer peut-être le fait qu'on n'ait pas d'empathie pour les personnages parce que Joe Pena, en fait, il a pris le parti de ne montrer que le vaisseau.
Il n'y a pas de backstory.
Oui, mais ça, ouais. J'ai adoré. Tu vois, autant oui. j'ai trouvé ça trop bien de ne pas montrer.
Certes, mais ça empêche l'empathie.
C'est
parce
vrai,
que,
c'est vrai.
Michael, qui est là, qui est le passager numéro 4, en fait, il a sa sœur qui est sur Terre et on ne la voit jamais. On le voit juste discuter avec un écran d'iPad, il envoie des messages à sa sœur, mais on ne la voit jamais dans
et
le
on
film.
Ne l'entend pas
on
non plus.
On voit pas
ouais.
non plus Hyperion, on voit pas la base. Enfin bref, on reste juste sur les passagers. Alors, au départ, je trouve que oui, en termes de mise en scène, ça peut être intéressant, mais ça creuse malheureusement ce petit défaut-là qui fait que, bah, en fait, Osef, quoi, au fond.
Ouais, en fait, il fallait choisir vraiment entre un thriller, ce qu'il est, hein, c'est vraiment, on est accroché, on est là un peu en suspense, tu vois, on manque d'oxygène. Je pense que, en fait, niveau mise en scène, c'est super bien fait parce que on n'a pas de contact. On ne voit jamais, en fait, la Terre. On n'entend pas une seule fois Hyperion, tout ça.
On les voit répondre,
on sait qu'ils parlent.
Voilà.
La sœur, pareil, il communique avec elle, mais on l'entend pas. Donc c'est super bien fait. On manque vraiment d'oxygène. Par contre, tout le côté en fait dramatique, il tombe à l'eau. Il tombe à l'eau parce que t'as pas de backstory. Ils essayent vite fait de le faire en disant oui. Machin, il y a une femme, lui,
ça.
Il a une sœur, elle...
Et même, je
on
trouve
voit
que
un peu sa carrière,
la façon dont il t'expose les personnages fait que tu sais la fin. C'est-à-dire qu'il y en a un, on te dit, ils ont tous des attaches, et la seule personne qui n'a pas d'attache, et d'ailleurs ça m'a posé un problème aussi, c'est pas qu'elle n'a pas d'attache, c'est qu'elle a des amis. Et du coup, j'ai eu l'impression qu'il y a un postulat de « elle a que des copines, du coup elle peut crever ». Enfin, tu vois un truc comme ça.
Oui,
du
elle
coup,
a pas
elle...
femme et enfant, donc on peut la sacrifier.
Et en fait, non, l'amour de tes amis aussi, ça compte. Enfin, elle n'a pas à être sacrifiée plus que d'autres. Après, c'est elle qui prend la décision au final. Mais voilà, c'est les problèmes principaux et des problèmes de vraisemblance. Mais là, je vais laisser Clément en parler.
Ouais, bah, je suis complètement d'accord avec ce que tu as dit. J'aime beaucoup le début. J'aime beaucoup le fait qu'on n'entende pas les réponses de Houston. C'est-à-dire qu'on n'entend que Toni Collette parler avec quelqu'un qui se trouve sur Terre, mais on n'entend jamais ce que la personne sur Terre lui répond. Ça, c'est vrai que ça les isole et c'est assez stressant. Mais pour moi, il y a un gros problème, c'est que le film est complètement invraisemblable. Et je veux dire, dans la science-fiction, c'est possible d'accepter des choses qui sont un point de départ. Je sais pas, moi, la moitié de la Terre a été éradiquée. On prend ça comme point de départ du film et on fait un film à partir de ça. Mais là, le point de départ, c'est donc qu'il y a un passager clandestin dans ce vaisseau. Or, c'est totalement impossible et ça n'est pas expliqué.
Ouais,
c'est-à-dire que le seul truc, c'est qu'on a Anna Kendrick qui nous dit « c'est un miracle que tu sois en vie ». Ah ben oui, c'est aussi une facilité de scénario. Et du coup, c'est le point de départ du film, c'est la base de tous les problèmes. Et ça, moi, ça m'a énormément gêné. Et le deuxième problème que je trouve énorme dans le film, c'est qu'ils sont incompétents pour réparer des choses. Tu comprends qu'ils sont pas du tout formés pour faire des sorties dans l'espace, parce que c'est des scientifiques, ils sont là pour aller sur Mars et étudier des choses, et du coup ils sont totalement incompétents sur toute la partie technique du vaisseau, parce que la seule qui pourrait l'être, on comprend que c'est Toni Collette qui est sûrement la commandante et qui a de l'expérience et tout, sauf qu'elle s'est fait mal au bras, donc elle peut rien faire. Et du coup ça fait qu'on a des personnages de bras cassés dans l'espace, et moi je trouve ça invraisemblable, dans le sens où ils ont un voyage de 2 ans qui les attend. Tu prends au moins une personne qui est qualifiée pour réparer le vaisseau, et tu prends des pièces de rechange, c'est ce que disait William d'ailleurs.
Oui, mais déjà, oui, voilà. Postulat de départ, un voyage à 3 pour 2 ans.
Personne qui sait faire les réparations, il n'y a pas de pièces de rechange, c'est invraisemblable. Et le problème, c'est que les deux enjeux du film reposent sur ça. Il y a un mec en trop et ils ne savent pas faire les réparations, et les deux enjeux sont pétés pour moi. Donc après, il y a des parties prises de mise en scène qui sont cool, il y a des plans séquences qui sont sympas, il y a des dialogues qui sont cool et tout, mais je peux pas m'accrocher à un film qui est totalement impossible à croire, quoi.
Ouais, en fait, tout est très vite esquivé. On a vraiment cette impression de, tu sais, il veut rusher son film. C'est-à-dire qu'il se dit, ouais, on pourrait peut-être creuser cette partie, mais non, en fait, on n'a pas le temps. Donc du coup, bah, en fait, le je sais pas quoi, l'extracteur
de CO2,
le carbone, est pété. Non, c'est pas réparable. Tu vois, direct, il l'esquive direct, ils essayent même pas. En fait, je sais pas, ouais, t'as vraiment cette impression de rush où ils prennent pas le temps. Il n'y a aucune solution, tu sais, ils essaient vite fait de l'expliquer en disant « Ouais, c'est un vaisseau qui était conçu pour deux, mais on a rabaissé, enfin, réduit un peu les parois, donc du coup, maintenant, on peut être trois. » Donc du coup, ça explique, mais en fait, ça explique rien du tout. Et j'essaie un peu cet effet interstellar, tu vois, mais interstellar, c'est normal, c'est du Nolan. Si tu ne comprends pas Nolan, c'est que Nolan a réussi son coup. Donc lui, il balance...
son chef-d'œuvre, d'ailleurs, pour ça.
Il balance des trucs, machin, tu comprends pas, mais tu l'acceptes. Là, ici, il balance des trucs, tu comprends pas, mais tu dis « Mais pourquoi, en fait ?» Essayer, quoi.
Et du coup, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, ça va être un film symbolique. C'est-à-dire, je me suis dit, il va y avoir un propos sur l'immigration avec le passager clandestin qui est noir en plus. Et je me suis dit, ça va être un film à prendre au deuxième degré. Et on n'est pas vraiment sur des vrais problèmes techniques, on est plus sur des dilemmes métaphysiques du genre, ben là, il y en a un qui doit mourir. Déjà, comment on annonce à quelqu'un qui doit mourir? Est-ce qu'il doit se suicider? Est-ce qu'on doit le tuer? Et ça va être ça les enjeux. Et en fait, pas du tout. C'est pas ça, c'est vraiment il faut réparer le vaisseau et tout, et du coup bah ça m'a pas plu, quoi.
Et puis du coup aussi ça rejoint aussi, bah après le problème c'est que ce film visuellement, techniquement, il est pas dingo, quoi. On est quand même sur un film post Gravity, post Interstellar, qui ont mis le level haut, hein, en termes d'image, et là ça fait un peu cheap, quoi. On ressent très peu ce truc d'apesanteur, je trouve que c'est mal foutu. Les effets visuels sont pas ouf et on a du mal à y être, quoi. Et puis même dans les personnages, dans leur psychologie, le gars il débarque, il se rend compte qu'il est à des milliers de kilomètres de chez lui.
Oui, parce qu'on n'a pas dit, mais il est là accidentellement, c'est un technicien au sol. Alors, qui s'est retrouvé là.
Mais on comprend pas pourquoi.
Parce qu'en fait,
il dit vite fait, bah, j'étais dans le lanceur, mais en fait,
Il
s'est évanoui.
Voilà, tu t'es pris.
Et qu'est-ce que tu fais là-dedans?
T'es pris du gigamac dans la gueule au démarrage.
Vraiment,
et tout.
T'es
mort, frère. C'est de la charpie qu'on retrouve dans le sas. C'est pas toi en entier. Enfin, bon, bref, ok, allez, acceptons. Mais même après, lui, dans sa psychologie, il panique pendant 2 minutes et après, il est là tout sourire en mode, il tape des blagues et tout. Et puis, vas-y, qu'on sort réparer les bordels. Machin. Mais frère, t'as zéro formation en fait. En vrai, tu sers à rien. En vrai, t'ouvres le sas et puis tu te débarrasses de lui, quoi. Qu'est-ce que tu veux faire, quoi? On a un garagiste qui est là.
J'ai trouvé que c'était hyper maladroit parce qu'on essayait d'accentuer le fait que sur ce mec est super sympa, il est gentil, il essaie de s'intégrer. Et tu fais, ouais, mais ça suffit pas à développer de l'empathie pour le personnage, quoi.
Et puis il s'y fait très vite. Moi, je serais mort de peur.
Ouais. Il y a un autre truc aussi qui est mal fait, c'est un peu le développement des personnages où en fait tu sens qu'au départ la capitaine, enfin la commandante là, ça la fait chier, et puis en fait d'un coup elle revient gentille, et puis après elle est un peu embêtée, et en fait du coup ils passent tous par plein d'émotions, à part Anna Kendrick qui est la seule qui est à peu près stable, parce que du coup elle a de l'empathie, ça on a compris, c'est la caution sentimentale du groupe,
c'est la bienveillance, quoi.
Pareil, l'autre il vrille complètement, Daniel
Oui, parce que son expérience, du coup, est interrompue.
Ouais, mais tu sais,
parce que les algues qu'il devait cultiver sur Mars servent à faire de l'oxygène sur le vaisseau.
Et crèvent,
c'est ça. Voilà. Donc lui, il est désespéré parce qu'il était là que pour ça. Et voilà.
Et du coup, bah, en fait, il passe du ouais, je suis trop pote avec tout le monde, à je suis déprimé, à je deviens méchant, à je m'excuse. Enfin, et en fait, ils passent tous par plein d'émotions très rapidement.
Et là,
en fait, tu sais pas qui est le méchant, qui est le gentil, qui.
Justement, le film aurait été intéressant si on avait eu une tension un peu. On le voit un peu dans Sunshine de Danny Boyle. Où il y a des mecs qui vrillent totalement, tu vois, c'est l'ivresse de l'espace, qui rend totalement fou.
Mais tu as tout ça dans Alien,
ça aurait été super
intéressant
de voir un gars qui veut le tuer, tu vois, et qu'il y ait vraiment une espèce de conflit sur ça et tout.
Oui, et que les mecs, ils n'arrivent plus à dormir parce que t'as peur qu'il y en ait un qui te bute dans la nuit et pour survivre.
Et en plus, t'as le meilleur contexte pour ça parce que vous êtes 4, donc ça fait un 2-2, t'as la parité exacte et tu peux jouer sur le côté qui est-ce qui va retourner sa veste, tu vois.
Ouais, ou faire un volet. Mais ils n'avaient pas de mais c'est dommage parce que je pense que ce film, il avait un postulat de départ qui est quand même intéressant, assez gros évidemment, totalement très très gros, mais qui était marrant quoi, qui aurait pu, oui, comme tu dis Clément, embrasser des questions politiques et puis avoir cette double lecture là dans c'est souvent ça, hein, quand on l'a vu dans Ad Astra, c'est un film qui est dans l'espace mais qu'il faut le voir, il faut le voir, faut lire entre les lignes pour comprendre le message. En fait, ce film-là, il est très...
C'est très littéral, ouais.
Ouais, très littéral, et puis même jusque dans leur bêtise, en fait, qui est très littéral aussi, parce que les gars, ils attendent des plombes avant d'agir, et puis finalement, ils y vont quand il y a une éruption solaire, ce genre de délire. Donc, apporter de l'attention bêtement, c'est l'inverse d'un Deus Ex Machina, je ne sais pas s'il y a un mot pour ça, mais c'est quand le problème arrive à un moment où tu t'y attends.
Ouais, c'est ça. Et en plus, tu sais que la solution est juste en haut ou en bas. Je sais pas exactement où est-ce qu'on se place.
De Chekhov juste avant, donc tu sais que ça va arriver, quoi. Je veux dire, c'est dommage parce que la tension, elle était là. Moi, j'ai ressenti quand même des petits moments de tension.
Ah oui, complètement. Ouais, au début, ça marche bien. Ouais.
Mais t'es un peu mise à l'écart par le fait que ben tu les vois sur leur pole dance là à grimper le truc et tout.
Oui, sans attache, les gars ils se lâchent dans l'espace sans attache. Quoi.
Sans attache et puis avec Kendrick qui nous fait des petites danses genre vraiment où tu sais hop elle saute, elle lâche le truc, elle fait hop je vais la récupérer tranquillement avec l'autre main. Hop. Et t'es là bah en fait non.
Tu
connais
la position du lotus regarde.
Parce que si tu restes pas accroché c'est Gravity Die. Hein,
Bah tu vois, Gravity aussi, qui a une double lecture aussi, qu'il faut revoir Gravity pour comprendre, mais qui n'est pas seulement un film juste dans l'espace. Quoi. Là, vraiment, c'est le film dans l'espace. Il n'y a pas double sens et tout, hormis dans les belles paroles d'Anna Kendrick, qui nous raconte un peu sa life.
Oui, mais même à un moment, j'en étais à me demander qu'est-ce qu'elle va foutre au fait sur Mars. Lui, il a sa mission avec les algues et tout. Ouais. Ok, Toni Collette, elle pilote, mais en fait, elle...
Bah écoute,
c'est juste la médecin, elle est là parce que...
La composition de l'équipe, c'est un gros problème en fait.
Botanis, il va servir plus à rien parce qu'il va arriver là-bas, il va quoi, il va déblayer les cailloux devant...
De toute façon, il dit la mission, elle est foutue. Hein. Là, leur but à la fin, c'est juste d'arriver vivant sur Mars. Putain.
Et justement, le film s'arrête au moment où il devrait commencer en fait. Parce que quand Anna Kendrick se sacrifie, on sait que il a dû se passer 2 ou 3 semaines à ce moment-là.
Ouais, ils le disent, mais je sais plus combien. Mais
donc il reste encore 2 ans, quoi, en gros.
5 semaines, je
donc,
crois.
Donc en fait, ce qui aurait été intéressant, c'est de voir justement le poids de ce sacrifice, le poids de tout ça. Au moins qu'ils arrivent jusque sur Mars. Peut-être qu'il manque une demi-heure au film, tu vois. Mais
c'est long hein, quand même. Hein.
Ouais, c'est long.
En fait, le film, il est lent, quoi, dans le rythme.
Mais, je sais pas, tout cet enjeu psychologique qu'on aurait aimé avoir dans le film, et en fait, il y est pas, quoi, il est très vite effacé d'un coup de main, quoi.
Ouais, je crois que le plus terrible, c'est quand elle se sacrifie et qu'elle dit à son pote, il veut y aller, lui, se sacrifier, et elle lui dit non. Tu as des enfants à faire sur Terre. Genre, faut que tu rejoignes ta femme et que tu fasses des enfants. Et t'es là, what?
Que tu cultives ton potager.
C'est ça, c'est ça. Bon, toi, t'es la seule à savoir piloter, donc reste en vie. Et toi, il y a ta sœur. Moi, j'ai que des copines.
Allô,
je vais mourir.
On embarque pour 2 ans sans médecin. C'est-à-dire que tu chopes un rhume dans l'espace.
Oui, le fameux rhume de l'espace, terrible.
Ah, t'hésites contre les médicaments, tu sais pas. Bah non, elle est où elle? Bah, elle est en train de frire là-haut, là, sur le capot.
Bah, t'as aussi ça, t'as aussi cette menace en fait que tu comprends pas très bien. Enfin, tu te fais irradier par le soleil, machin. T'sais, tu la vois en train de mourir petit à petit. Tu fais, mais qu'est-ce qu'elle prend en fait? Est-ce qu'elle prend des. Est-ce qu'elle a Fukushima ou. Enfin, tu sais pas trop. Tu vois des petites. Qui viennent
bronzage de
je pense qu'il y a un truc qui est mal expliqué aussi, c'est pourquoi tout d'un coup il y a une urgence à aller chercher ce truc, parce qu'ils disent qu'il y a cette radiation là qui arrive et que ça va durer des heures
et qu'ils peuvent
et
tenir
du coup on comprend pas trop pourquoi ils attendent pas des heures
parce que
ça
passe, parce qu'il y a le tuyau qui fuit, Donc si
ils avaient un plombier,
il y a le joint de culasse, c'est vrai.
Le plombier, il est dans l'autre compartiment, ouais. Ils ont pas ouvert le bon sas.
Alors, j'ai là. Pas fait polyclinique, hein, mais je tiens juste à dire que il y a peut-être moyen de réussir cette mission, parce que on peut tenir quoi, une minute en apnée, si chacun son tour. Ils tiennent une minute en apnée. Après, tu deviens un peu professionnel, donc tu peux aller taper les records du monde à 8 minutes.
Bien sûr.
Hey, franchement, tu sauvegardes quelques heures d'oxygène. Hein.
Ouais.
Ils ont même pas essayé.
Je sais pas, ou de faire pousser les plantes dans leur casque.
Directement, bah ouais.
Les algues direct dans le casque.
En plus, si tu gardes les algues séchées, tu peux faire des maquis.
Bon, bah voilà. Moi, ce que j'en retiens, c'est que je m'attendais un peu à ce genre de film.
C'est Osef, hein, franchement.
Pas.
Ouais. Oui, c'est pas voilà. Nul.
Et il souffre un peu de, ouais. Bah, de tous ses frères et sœurs, en fait, qui sont sortis bien avant lui et qui ont réussi leur coup, quoi. Et du coup, ils arrivent là avec. Ils auraient dû avoir une promesse, ils en avaient pas vraiment, quoi.
Écoutez, ça se regarde, sans
oui.
Plus.
Oui, oui, ouais. Complètement, ça
oh,
se regarde.
C'est pas pourri, hein, c'est un bon divertissement.
C'est pas, ouais. Voilà, c'est pas pourri, c'est pas un gros film de merde, genre en mode n'y allez pas et tout. Je pense qu'on peut même le recommander à quelques personnes, ce film.
Oh, bah ouais.
Qu'en pensez-vous? Je travaille mes transitions.
Ouais, ouais, ouais,
bien joué.
Allez, il est temps pour nous d'ouvrir la page des Rococo.
À qui le rococo ?
À qui le recommandez-vous ?
À qui le rococo ?
À qui le recommandez-vous ?
À qui ?
Les rococos, les recommandations de Feta Bea, c'est la partie où on recommande le film avec le petit ton de la blague qui va bien à des personnes. Tour de table, Clément, à qui recommandes-tu ce film ?
Alors moi, je vous recommande, si, vu que l'été approche, si vous voulez bronzer rapidement, je vous recommande de vous exposer à une éruption solaire pour un bronzage très efficace et assez définitif.
Définitif, c'est le cas. Erwan, t'es rococo.
Alors moi, je le recommande à tous ces touristes qui se plaignent en Bretagne des algues sur la plage. Ils pourront peut-être vous sauver la vie un jour.
Voilà. Arrêtez de parler mal des
l'algue
blagues.
C'est ça.
Johanna, t'es rococo. Envers qui vont-elles ?
Ça, tous c'est ceux pas une phrase. Je la recommande à tous ceux qui savent pas quelle fac choisir à la fin de l'année. Il y a Harvard ou Yale, il y a que ça de vrai. Vous comprendrez en voyant le film.
Eh oui.
C'est vrai.
Eh oui. Alors que la fac Jean de la
de
Fontaine
Toulouse.
est la plus recommandable.
Et toi, Romain,
à qui tu rococo ?
J'ai plusieurs recommandations en fait, mais je pense que je vais surtout recommander le film à tous les fans d'Alerte à Malibu, parce qu'à un moment Anna Kendrick elle raconte un épisode.
Oui. Ah oui, c'est vrai.
Et franchement, moi j'y étais quoi. Je voyais les petits shorts rouges,
oui.
Les gros boobs de Pamela.
Je me souviens pas du tout.
Elle va sauver le mec dans l'eau.
Ah oui.
Je voyais David Hasselhoff moi.
Et je m'attendais pas à ce que David Hasselhoff arrive pour m'attraper.
Voilà.
J'avoue.
Ouais. Ou bien je voulais aussi le recommander à ceux qui croient en leurs rêves quoi, parce que pour Anna Kendrick par exemple, tu peux passer de faire de la musique avec des gobelets à médecin, à médecin,
médecin dans
médecin cosmonaute pour une mission sur Mars. Voilà. Vous voyez le comment on appelle l'ascension sociale, c'est assez fou.
Croyant vos rêves.
C'est exactement ça. Ah bon. Bah, sur ces belles paroles, je pense que on va redescendre, nous. Hein.
Redescendre.
On va arrêter là, on va respirer un bon coup. Profitons de cette hygiène qu'on a.
Ah ouais, on a la campagne là.
Pour se dire
merci les algues.
Calmement, au revoir.
On adore les algues.
On n'est pas bien ?
Si.
Paisible. À la fraîche. Décontracté du gland. Et on bandera quand on aura envie de bander.
Voilà, voilà, pour ce qui était de notre épisode 50. On y est.
Hé, 50.
Eh ouais, demi-siècle.
Pas mal.
50.
Oh la vache.
Demi-siècle, ça fait 2 ans.
On devrait être à l'épisode 124 en vrai, mais voilà. Parce qu'on est saison 2.
Procrastination, tu connais.
Et qui va piano, va sano.
The Nest, que nous, on va aller voir sur Canal+. Pour se faire le match retour dans l'épisode 51 qui arrive très vite la semaine prochaine. Et puis ben ce film, passager numéro 4, qu'on vous conseille moyennement en fait en gros. Voilà. Non mais si vous avez rien d'autre à foutre de votre vendredi.
Ouais non, mais c'est exactement ça, c'est un film du samedi après-midi.
Et après vous pouvez voir Passager 57.
C'est quoi ?
Vous connaissez pas ce film, ça se passe dans un avion avec un passager qui est prisonnier et qui doit être emmené à une destination et qui détourne l'avion.
Avec Wesley Snipes.
Exactement.
Yeah.
Et après vous pouvez voir Passengers pour vraiment une après-midi de merde.
Une après-midi passagère.
Et pour l'épisode 51, où est-ce qu'on va?
Direction.
Nous allons faire un tour. Et c'est là que vous allez comprendre pourquoi le programme est très compliqué. Nous irons faire un tour du côté des Mitchell.
What?
Voilà. Oui, on ira faire un tour chez les Mitchell, un film Netflix d'animation. Attendez. Qu'est-ce que.
Ah, ça vibre.
Notre épisode 51, mais. Allô?
Allô, Romain?
Oui?
Romain, c'est Jean-Mi.
Ah, Jean-Michel, Jean-Michel, c'est mon cousin.
Ah, c'est Jean-Michel.
Ça fait longtemps.
Vous vous souvenez?
Bonjour.
Comment ça va, Perpignan?
Salut, Jean-Mi. Salut, cousin. Ça va?
Bah, ça va, et toi? Eh putain, ça fait longtemps que je t'ai pas vu, Romain.
Oui, c'est vrai, ça fait un moment qu'on s'est pas parlé, effectivement.
Eh bah oui. Alors du coup, je me disais, je te fais la surprise, là, je suis sur l'autoroute, j'arrive.
What?
Comment ça?
Comment ça t'arrive?
Ah, j'arrive, Ginette, elle est là, et tout. On a laissé les enfants chez la nounou, j'ai le pastis, je suis prêt.
Quoi, tu bois au volant?
Mais non, tu sais bien que j'ai plus le permis. parce que j'ai bu au volant avant, mais maintenant, c'est Ginette.
Ah, ok, bah écoute, ça me rassure, mais.
À boire au volant aussi, mais personne ne l'a grillé encore.
D'accord, mais moi je te rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, Jean-Michel.
Mais c'est des conneries, Romain, tu sais bien.
Mais nous on s'en.
J'ai écouté votre épisode de Rambo là, arrête.
Ouais, bah justement, c'est pour ça que je te dis que c'est dangereux pour la santé. si t'as écouté l'épisode, tu vois bien. Ça, c'est un truc qu'on refera plus jamais.
Pas du tout. Oh, le parisien un peu cher, arrête, j'arrive, t'inquiète pas. Le coffre il est chargé, l'épisode 51. T'inquiète pas qu'on va boire du jaune, hein.
Quoi? Attends, je te suis pas là, comment ça?
T'inquiète, j'arrive. Ah, t'es foutu. Ah, putain, les flics, attends. Ah, je raccroche, hein.
Ok.
Non, monsieur l'agent, non, mais c'est pas du pastis. Monsieur l'agent, arrêtez, putain, oh.
Je crois qu'il ramène le pastagal.
Il est où?
Ouais.
Et je ramène du jaune, le gars.
D'accord, écoutez.
C'était inattendu, ça.
Il vient à Paris, là, il est sur l'autoroute du soleil.
J'ai pas compris, j'ai très très peur.
Je pensais qu'il détestait Paris.
Je sais pas ce qu'il fait. Le coffre plein, épisode 51. Plein.
Avec son jaune, là.
Peut-être des armes.
Ça a l'air de faire sens pour lui. Mais... écoute. Non, je crois qu'il est juste un peu bourré.
c'est
mon cousin.
Ça change pas beaucoup.
C'est mon cousin Jean-Michel. Ceux qui connaissent pas, on vous invite à réécouter les épisodes où il apparaît. Et je vais pas vous dire lesquels.
Non, parce qu'on s'en rappelle pas.
Si, c'est Clément, quand il y a Luc Besson.
13, 24. Ah,
24 et 32.
Le 3, le 11, le 41, entre autres. écoutez, la team. Film d'animation la semaine prochaine.
Et voilà. Allez, c'est parti.
On va voir ce que ça donne. Ça pue un peu, mais...
Oh, attendez, il y a d'autres choses que du Pixar dans la vie.
Et puis, nous, on va continuer de se faire des BA malgré tout. Hein, c'est pas un virus qui va nous arrêter.
Non. Et oui, et puis, nul ou pas nul, je veux dire, toutes les BA se valent.
Voilà, mais l'important, c'est tout
humanisme,
comme
merde.
Le dirait le grand Vin Diesel. La famille, c'est sympa. Bah, je vous remercie, et puis si vous voulez nous rejoindre sur nos réseaux, libre à vous, hein, Facebook, ouais. Twitter, Instagram... n'hésitez pas à nous mettre une petite note aussi sur Apple Podcasts, Podcast Addict, à vous abonner.
Fetabea.fr.
Voilà, ça nous aide beaucoup. Donc si vous nous écoutez sans être abonné, faites-le. Et on vous en sera très reconnaissant. Merci à vous de nous écouter. Merci la team.
Salut Romain.
À la semaine prochaine, apparemment pour de grandes aventures.
Ça. Épisode 51.
Allez, ciao.
Bisous.
Allez, des gros bisous.
Bisous. À toutes.
Shoshana!
Efficace.
Ouais, on va regarder les Mitchell.
Je sais même pas ce que c'est.
Vivement que les cinémas réouvrent. Hein.
On commence à être en fond de cale là.